Lettre de Frère Joseph Branham du 5 octobre 2025. Les aigles se rassemblent. Chère épouse du signe, quand nous nous réunissons, nous ne parlons pas seulement du message, nous nous réunissons pour appliquer le sang, pour appliquer le signe. Et le signe, c'est le message de l'heure. C'est le message de ce jour-ci, c'est le message de notre temps. Nous avons appliqué ce signe à nous-mêmes, à nos maisons et à nos familles. Nous n'avons pas honte. Peu nous importe qui le sait. Nous voulons que tout le monde le sache, que chaque passant voit et sache que nous sommes des gens qui écoutent les bandes. Nous sommes un foyer qui écoute les bandes. Nous sommes l'épouse de Dieu qui écoute les bandes. Saint-Esprit égale signe, égale message. Ils sont tous la même chose. Vous ne pouvez pas les séparer. Père, Fils, Saint-Esprit égale Seigneur Jésus-Christ. Vous ne pouvez pas les séparer. Message égale messager. Peu importe ce que les critiqueurs disent, le prophète a dit que vous ne pouvez pas les séparer. Dieu est votre joie, Dieu est votre force. Connaître ce message, savoir que c'est la seule vérité, savoir que c'est le signe, cela nous suffit. Certains diraient peut-être, j'y crois. J'y crois, je crois que c'est la vérité. Je l'accepte comme étant la vérité. Tout ça c'est bon, mais il doit quand même être appliqué. Le prophète a dit que ce message est le signe pour aujourd'hui. Ce message est le Saint-Esprit. Si vous avez la moindre révélation de ce message, vous pouvez clairement voir l'heure dans laquelle nous vivons. Tant de gens disent, j'y crois, Dieu a envoyé un prophète. C'est le message de l'heure, mais ils se vantent en disant qu'ils ne passent pas et ne passeront pas la voie même du signe dans leurs églises. Dieu n'a pas parlé par son ange puissant pour simplement dire quelque chose sans que cela ait une signification. Il nous a dit qu'il nous a enseigné en utilisant des types et des ombres. Dans ce message, le prophète nous explique bien en détail ce que Rahab et sa famille ont fait pour être sauvés, pour devenir l'épouse. Il a été très clair sur ce qu'elle a fait. Quand les frères avec des bandes magnétiques ont passé la bande, attendez une minute, qu'a fait ce messager? Il a passé une bande. Ensuite, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait de sa maison une église de bandes. Et n'avait pas honte de dire, « Vous voyez ce cordon rouge? Cela signifie que je suis une église de bande. » Pensez-vous que si elle avait dit, « Oui, je crois le messager et le message, mais nous ne passons plus les bandes dans notre église. » J'ai un pasteur qui dit que non, il doit seulement prêcher et citer ce que les bandes disent. Pensez-vous qu'elle aurait été sauvée? Frère Branham dit, je cite, « Elle appliqua le signe et sa maison fut sauvée. » Sinon, elle aurait péri là-bas où elle se trouvait. » Fin de citation. Vous avez entendu beaucoup de ministres trouver des excuses à propos de passer les bandes, mais la plupart disent, le prophète n'a jamais dit de passer les bandes dans l'église. Le prophète a dit que Rahab a fait de sa maison une église et son église a passé les bandes. Et parce qu'elle a passé les bandes dans son église, elle et toute son église de bandes étaient sous le signe et ils ont été sauvés. Toutes les autres églises ont péri. Frères et sœurs, s'il vous plaît, je ne dis pas qu'un pasteur ne peut pas prêcher ce message ou que c'est mal s'il le fait. À ma façon, je prêche en ce moment par cette lettre, mais ouvrez votre cœur et écoutez ce que le prophète dit et l'avertissement qu'il vous donne. Si votre pasteur ne passe pas ou refuse de passer les bandes dans votre église, en trouvant des excuses, quelles qu'elles soient, selon la parole, peu importe combien il dit, je crois le message de l'heure, selon ce que je crois que la parole dit, le signe, le message de l'heure n'est pas appliqué. Ce dimanche, je vous invite à venir écouter avec le Branham Tabernacle à midi, heure de Jeffersonville, le message, le signe du 1er septembre 1963, le matin. Si vous ne pouvez pas vous joindre à nous, passez n'importe quel message du signe et appliquez-le. Frère Joseph Branham.
Reste en debout maintenant alors que nous courbons la tête. Seigneur Jésus, nous ne faisons que croire. Tu nous as dit de simplement croire et nous croyons maintenant. Et nous te rendons grâce et te louons pour ce que nous avons déjà entendu et vu. Cela ancre notre foi. Combien nous te remercions pour cette nouvelle opportunité de venir prêcher à ceux qui sont dans le besoin. Maintenant, je te prie, ô Dieu, de pourvoir nos besoins ce soir, selon ta promesse. Le demandons au nom de Jésus. Amen. Nous sommes très heureux ce soir d'avoir le privilège de revenir au tabernacle de nouveau pour avec l'Évangile du Seigneur Jésus ressuscité. Et j'étais juste un peu en retard, je viens tout juste d'avoir un cas spécial urgent du Michigan, et le Seigneur vient de faire une chose merveilleuse pour elle. Oh là là, comme il connaît toutes choses et le dispose simplement, vous n'avez pas besoin de lui dire, il sait. Il sait exactement ce que c'est. Alors nous sommes très reconnaissants. Les gens ont conduit toute la journée pour venir ici, et bon, nous en sommes si reconnaissants. Maintenant, n'oubliez pas, cette bande est en marche. Oh, l'interrupteur, je vois. N'oubliez pas les réunions de la semaine prochaine, mercredi soir et dimanche matin prochain, et dimanche soir. Si vous êtes dans le coin, je sais qu'il serait vraiment heureux de vous voir ici. Maintenant, priez pour moi alors que je continue mon chemin ailleurs et j'espère revenir bientôt. Je tiens à vous remercier tous pour votre gentillesse et les souvenirs de ce que vous avez fait pour moi. Et un frère m'a récemment envoyé un complet neuf qui vient d'une petite église en Géorgie. Et ces gens, c'est simplement merveilleux. Et je tiens à remercier ces gens du Kentucky avec qui j'ai été en vacances la semaine dernière et tout ce que le Seigneur a fait pour nous là-bas. Sa grande main puissante, nous l'avons vu, ce qu'il a fait. Maintenant, nous espérons vous revoir très bientôt, dès que je reviendrai par ici, pour aller à New York pour la convention, qui est à Stone Church avec Frère Vic, à partir du, je crois que c'est le 12 novembre, et nous serons par ici quelques jours avant cette date. Ensuite, nous repasserons encore en allant à Shreveport, en Louisiane, avec Frère Jack Moore. C'est à l'Action de Grâce, la semaine de l'Action de Grâce, que nous serons à Shreveport. C'est sur le tableau d'affichage, je pense, au fond là-bas, parmi les annonces. Et puis, nous espérons être avec quelques-uns de nos amis du Sud après Noël. Nous serons à Phoenix en janvier. Et puis, j'attends un appel d'Outre-mer pour que nous puissions préparer la réunion d'Outre-mer. Ils travaillent sur celle-ci en ce moment, le mois dernier. Frère Borders a eu des échanges dans les deux sens pour une tournée à travers le monde entier qui débutera dès qu'on aura terminé de la préparer. Mais nous devons attendre que les conditions soient réunies. Les foules sont tellement énormes là-bas que nous ne pouvons pas les faire asseoir dans les bâtiments. Nous devons les faire asseoir dehors sur le sol. Et puis parfois, elles augmentent. Le nombre est presque incroyable, parfois même jusqu'à 500 000. C'est un demi-million de personnes dans un seul rassemblement. Pas le nombre de personnes qui assistent aux réunions en temps de jour, mais dans un seul rassemblement. Vous savez, habituellement, les évangélistes comptent le nombre de personnes qui assistent en 6 semaines. Vous voyez, mais nous comptons juste combien il y en avait ce jour-là, cette seule fois. Et si parfois il n'y a pas de place pour le faire asseoir, vous savez, on doit le faire asseoir dehors sur le sol. Et nous devons choisir la saison où il ne pleut pas et où les pluies ne sont pas abondantes. Et ces pauvres gens assis là, j'ai vu des femmes assises là, les cheveux défaits, des gens bien habillés, et restent sous cette pluie toute la journée. Ils restent là, et il pleut à verse, et il tonne, et les éclairs, et des orages soufflent, et ils s'entassent les uns contre les autres comme ça, ils restent là, attendant que vous veniez prier pour eux. Voyez, oh, vous savez que Dieu honore une telle foi. Certainement, vous devez faire quelque chose pour que Dieu l'honore. Vous voyez, vous lui montrez, les gens qui obtiennent tout si facilement ne sont habituellement, ils ne font rien pour ça. Vous voyez, vous devez, le don est gratuit, ça c'est vrai, mais vous devez, il semble que, vous savez, comme on dit, si vous êtes né avec une cuillère d'argent, vous avez déjà entendu ça, vous ne l'appréciez pas. Mais quand vous devez travailler pour l'avoir, vous en appréciez la valeur. Maintenant, vous les gens des bandes là-bas, j'aimerais que je pense que maintenant, ce matin était, selon moi, le message le plus marquant de tout mon ministère, ce matin. Voyez un message marquant de mon ministère. Un jour, je vous raconterai comment c'est arrivé. Et je sais que tout a travaillé en ce sens depuis des mois et des mois et des mois pour aboutir à ce message-là, pour en arriver là. C'était son couronnement, voyez-vous, et c'est un... Bon, je suis sûr, du moins j'espère que vous avez saisi ce que signifie le signe. Voyez, le signe est la preuve que le sang a été appliqué. Que le prix qui avait été demandé, exigé par Dieu, Jésus a payé ce prix en versant son propre sang. Il l'a fait. Ensuite, de sa vie est sorti le Saint-Esprit. Et quand le sang est appliqué sur vous, le Saint-Esprit est un signe que votre prix a été payé. Dieu vous a accepté. Et c'est ça le signe. Souvenez-vous, c'est ça le signe. Or, il y a bien des gens qui ne savent pas ce qu'est ce signe. Vous voyez, et vous devez faire comme si personne ne le savait. Vous voyez, fait que chacun d'eux le saisisse. C'est comme quand on prêche le salut, nous devons prêcher le salut de manière à ce que tout le monde, c'est pour tout le monde, ce qui, nous le savons, n'est pas le cas. Nous devons prêcher la guérison divine pour tout le monde, même si nous savons que ça ne l'est pas. Voyez, Jésus est venu sauver ceux qui étaient dans le livre de la rédemption avant la fondation du monde. Il n'est venu sauver qu'eux. Qui ils sont, je ne sais pas, voyez, mais vous, personne ne peut avoir la foi à moins de dire que c'est pour quiconque. Et ça l'est, personne ne peut venir à moins que Dieu les ait appelés. C'est vrai. Alors, il y a beaucoup de gens qui ne seront pas sauvés. Nous le savons. Eh bien, Dieu le savait avant la fondation du monde qu'ils ne seraient pas sauvés. Il y en a beaucoup qui ne seront pas guéris, voyez. Beaucoup ne seront pas guéris. Ils ne le peuvent pas. Ils ne peuvent pas le saisir. Ils ne savent pas ce que c'est. Beaucoup le seront, mais nous prêchons que c'est pour tout le monde, parce que nous ne savons pas qui est cette personne. Nous ne le savons tout simplement pas. Mais ça, c'est un quiconque. Il y a des gens qui ne peuvent pas saisir cette foi. Bon, il en est de même pour ce signe. Le signe, nous avons parlé du signe tout au long, mais maintenant, c'est la manifestation du signe. Voyez? Or, nous l'avons parfois considéré. Les luthériens l'ont considéré en acceptant la parole, en acceptant Christ comme son sauveur personnel. Les méthodistes ont dit, quand vous vous réjouissez au point de pousser des cris, voilà, c'est ça. Les pentecôtistes disent, parle en langue, et avec ça, vous l'avez. Et nous voyons que tout cela était faux, voyez? Le signe, c'est le signe. C'est vous et Christ en tant que personne ensemble. Voyez, c'est le Saint-Esprit, sa vie en vous, qui mène sa propre vie à travers vous. Et c'est pour le riche, le pauvre, pour quiconque le recevra. Maintenant, souvenez-vous, le signe est ce que vous allez à la compagnie de chemin de fer et vous payez le prix de passage. Il y a un prix, un coût. Disons que ça coûte 50 cents pour prendre cette ligne d'autobus ou le chemin de fer d'ici à Charlestown, Indiana. Ça coûte 50 cents. Eh bien là, la compagnie émet des tickets pour que, voyez donc, voici ce que vous faites. Vous allez là-bas et quelqu'un paie le prix de votre passage, 50 cents. Il vous donne un ticket qui vous donne le droit à bord de ce train jusqu'à sa destination. Peu importe où ce train ira. Voyez, cela vous donne, c'est un signe. Or, dans ce cas-ci, le sang était le signe. Il fallait l'appliquer littéralement parce que ce n'était que de la chimie. C'est tout ce qu'ils avaient parce que c'était le sang d'un agneau, un animal, le sang d'un agneau. Ainsi, la vie qui était dans le sang, la vie qui était sortie, alors le sang était versé. Voyez, la vie était sortie, mais elle ne pouvait pas revenir sur le croyant parce que c'était un animal. Mais cela parlait seulement d'une bonne conscience, que quelqu'un allait venir, un sacrifice parfait. Et pour en faire un être parfait, le juge entier, le Dieu du ciel, est devenu le sacrifice. Juge, jury et avocat, voyez, il est devenu le sacrifice. Et alors, quand sa vie est sortie, laquelle était Dieu? Et ce mot-là, d'où il vient? Et je leur donnerai la vie éternelle. Maintenant, dans le grec, je sais que je parle à des érudits. J'en vois deux ou trois, voyez. Et le mot grec, là, c'est Zoé. Z-O-E. En grec, qui signifie la vie même de Dieu. Et je lui donnerai Zoé. Ma propre vie. Christ et Dieu étaient un. Donc la vie qui était en Christ, c'est le Saint-Esprit, ce n'est pas la troisième personne, mais la même personne sous la forme du Saint-Esprit qui vient sur vous, comme signe que votre vie, que le prix de votre passage ont été payés. Vous avez été accepté. Tant que ce signe n'est pas venu, vous n'êtes pas autorisé sur l'autoroute. Vous n'êtes pas autorisé sur la ligne d'autobus. Vous n'êtes pas autorisé d'entrer tant que vous ne pouvez pas présenter ce signe. Et ce signe est le prix de votre passage payé. Et là, c'est ce qui montre que le sang a été versé et appliqué sur vous, que le prix a été appliqué sur vous, et vous avez là le signe qui indique que le sang est appliqué sur vous et que vous êtes accepté. Vous saisissez maintenant? Oh là là! Oh! Bon, pas juste une évidence dont vous n'êtes pas certaine, voyez? Vous dites, Frère Branham, je le perçois dans vos esprits. Voyez-vous, comment le saurais-je? Vous dites, Frère Branham, je le perçois dans vos esprits. Voyez-vous, comment le saurais-je? Regardez. Qu'est-ce que vous étiez et qu'est-ce que vous êtes? Voilà comment vous le savez, voyez. Qu'est-ce que vous étiez avant que ce signe ait été appliqué? Qu'est-ce que vous êtes après qu'il a été appliqué? Quels étaient vos désirs avant et quels sont vos désirs après? Alors vous savez si le signe est appliqué ou non. Et ces autres choses l'accompagnent automatiquement, voyez. Ce n'est pas comme d'en parler, de dire, les langues sont la preuve. Maintenant je vais acheter une paire de chaussures. La languette n'est pas la chaussure. Elle vient simplement avec la chaussure, vous voyez? Elle vient simplement avec la chaussure. Vous voyez? Or, c'est pareil pour le signe. Le signe, c'est Christ. Mais parler en langue, chasser le démon, faire ces choses, prêcher, quoi encore, c'est la preuve qu'il est là. C'est vrai, mais ce n'est pas cela. Vous voyez, c'est un don de cela. Si je vous disais que... Vous dites, je vous veux, Frère Branham, et je vous donne un présent. Voyez? Eh bien, ça, ce n'est pas moi, c'est mon présent. Le parler en langue est un présent du Saint-Esprit. Pas le Saint-Esprit, un présent du Saint-Esprit. Et le diable peut imiter n'importe laquelle de ces choses, mais il ne peut pas être le Saint-Esprit. Voyez, il peut imiter ses dons, mais il ne peut pas être le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est le signe que le sang a été appliqué, parce qu'il accompagne le sang d'un bout à l'autre du livre de la rédemption. Vous le voyez? C'était le but de sa venue. C'est ce qu'il a suivi dans chaque âge. Dans chaque âge, il a suivi cela pour voir à ce que cela produise et il ne pouvait pas être amené à la perfection sans nous. Et maintenant, le Saint-Esprit tout entier visite l'Église, produisant Dieu dans la chair humaine, comme il l'a fait avant que Sodome soit détruite par le feu là-bas, ce qui était un type. Ensuite, Abraham, il lui est apparu. Et toutes les choses qu'il n'a pas faites à travers les âges, durant les âges de l'Église, il les fait maintenant. Un retour à la parole, parce que les messages doivent se retrouver dans la parole entière. Et dans les derniers jours, les sept sceaux qui ont été ouverts devaient recueillir tout ce qui avait été laissé en suspens et rassembler le tout en un seul grand corps de l'épouse, afin que ceux qui ont vécu autrefois n'étaient pas parfaits tant que cette Église-ci soit rendue parfaite. Ce groupe de l'épouse dans les derniers jours, pour qu'il puisse entrer, que nous soyons tous enlevés ensemble, voyez, le signe, Jésus-Christ, le Saint-Esprit, est parmi nous. Nous devrions respecter cela. Nous ne pouvons pas assez nous humilier. Enlevez vos chaussures ou vous mettre à genoux ne le chassera pas. Ça ne serait pas suffisant. Ça ne vous suffirait pas, sauf une vie qui produit le fruit de l'Esprit. Eh bien, quel est le fruit de l'Esprit? Voyez? L'amour, la joie, la paix. Vous vous souvenez ce matin? La préparation, envoyer le messager avec le message. La chose suivante qu'il a faite après avoir envoyé le messager avec le message, il a envoyé la colonne de feu comme confirmation. Ce qui a suivi après ça, c'était une constellation ou un réconfort. Voyez, vous saviez que c'était juste, vous étiez en paix. Nous avons la paix avec Dieu par le Seigneur Jésus-Christ, voyez. Bon, ce soir, nous allons prier pour les malades et je pense qu'ils ont la communion. Vous allez avoir des baptêmes, un service de baptême? Juste la communion. Et nous voulons que vous restiez pour la communion. Et d'ici 35 ou 40 minutes, notre intention est d'avoir terminé d'être prêt pour la communion. Et demain, c'est la fête du travail, alors vous allez pouvoir vous reposer. Bon, j'ai dit que c'était notre intention, vous voyez. Nous ne savons pas à quelle heure. Je veux m'assurer que ce soit clair. Maintenant, ce matin, je vous ai dit, comme je n'étais pas avec vous, je pense que nous avons eu un autre message de 2 ou 3 heures ce matin. Mais je ne faisais que commencer. Je pensais continuer là-dessus ce soir, mais c'était vraiment trop colossal. Je ne sais pas si les gens l'ont saisi ou pas. J'espère que oui, partout. Et j'espère qu'il y a eu de bons enregistrements de ça pour que ce soit diffusé et connu que je crois de tout le message que j'ai apporté que cet absolu a été ordonné par Dieu. à part de, bien sûr, la commission habituelle, comme les sept sceaux et ces choses, ça, c'était directement la parole de Dieu. Je parle d'un message à prêcher. Je crois que c'était celui-là, voyez, celui qui devait faire suite à ces sept sceaux. Maintenant, regardez bien ce qui est arrivé après les sept sceaux. L'union des gens, l'union des signes, le feu rouge clignotant dans les derniers jours, les signes des femmes qui deviennent de plus en plus belles, et les hommes, ce qu'ils feraient. Tous ces signes du Saint-Esprit qui nous conduisait, puis revient ici même pour le couronnement de tous ces messages depuis les sept sceaux. Cela est couronné en cette seule chose, le signe, que tout va bien pour nous. Voyez, examinons-nous-mêmes et voyons si nous sommes dans la foi. Maintenant que le Seigneur vous bénisse, et avant de prendre dans la Bible afin de prier pour les malades, nous avons demandé ce matin combien on fait prier pour eux dimanche soir passé qui ont été guéris, qui ont déjà été guéris cette semaine, et pratiquement tout le monde ici a levé la main. C'était à la réunion de dimanche soir passé. Là, c'est quelque chose, vous comprenez? C'est quelque chose qui est... je demande cela pour moi-même. Il y avait un petit garçon dont on vient de parler. Il venait de Chicago, une petite madame... Est-ce que cette femme, Peckinpah? Madame Peckinpah vient de... C'est une très bonne sœur chrétienne. Et elle a amené quelqu'un, un gamin, de ce que j'ai compris, un petit garçon ou quelque chose comme ça, dont les médecins ne savaient même pas ce qu'il avait. Ses poumons étaient en si mauvais état ou quelque chose comme ça qu'il ne pouvait plus l'envoyer à l'école ou quelque chose du genre. Il était en très, très mauvais état. Et on a dit que le Saint-Esprit, tout de suite après le message, a parlé à ce petit garçon et l'a appelé, lui a fait part de son état et tout, et a prononcé sa guérison. Et cette semaine, il est allé, la mère ou les parents, ou qui que c'était, l'a ramené chez le médecin, et le médecin a dit qu'il avait de nouveaux poumons. Voyez, de nouveaux poumons. Et d'après ce que j'ai compris, les parents ou quelqu'un a fait un appel longue distance ou autre pour que cela soit connu de l'Assemblée. Voyez, ainsi Dieu, le Créateur, peut créer des poumons. Je crois vraiment que nous sommes à l'aube de l'une des choses les plus formidables qui soit arrivée sur la terre depuis l'époque du Seigneur Jésus. Voyez, mais bon, nous ne pouvons être connus que ce sera tellement humble. Voyez ce que l'homme appelle puissant, Dieu l'appelle abomination. Et ce que l'homme appelle insensé, Dieu l'appelle puissant. Voyez, alors maintenant, observez ça. Voyez, ce sera tellement humble que vous ne manquerez jamais, que vous allez le manquer si vous n'avez pas le signe. Là, pour examiner cela, voyez, qui aurait pu penser que les montagnes sautilleraient comme des petits béliers, et que les feuilles battraient des mains quand un prophète est sorti du désert. Cela avait été prononcé par Ésaïe 1200 ou 712 ans auparavant. Les visages couverts de barbe, un morceau de peau de mouton, pas même une chair ou prêcher, excommunié de toutes les églises et debout sur la rive du Jourdain en train de crier « Repentez-vous! » Et il traitait les gens de bandes de vipères, de serpents, mais c'est ce que Dieu avait dit, que quand il viendrait, les montagnes sauteraient comme des petits béliers. Voyez, les humbles l'ont vu et se sont réjouis. Comment pouvait-il comprendre que ce grand Messie, qui était prophétisé dès le début du livre, dans la Genèse, qu'il viendrait un sauveur? Tous les sacrifices et tous les prophètes et tout avaient pointé vers lui. Et puis quand il est venu, supposément de naissance illégitime, un père qui n'était même pas marié avec sa mère, soi-disant. Voyez, et cette femme avait été trouvée enceinte du bébé avant même qu'il ne soit marié. Il est venu de cette façon et né dans une petite, eh bien, on dit une étable dans la Bible. Mais une étable à cette époque-là était une caverne au fond d'un mur. J'en ai vu une en Arizona une fois à la chasse. Il y avait une étable sous une falaise de roche. Et c'est comme ça que Jésus est né là-bas dans cette petite étable sur le flanc d'une falaise, dans une crèche de foin et de paille, dans une étable. Voyez, là où se trouvait le bétail. Et il a été élevé comme aide-menuisier. Comment cela pouvait-il être le puissant Jéhovah? Mais ce l'était, voyez, ce l'était. Voyez, une sorte de personne très étrange. Mais oh, quand il n'était qu'un garçon, il a étonné les sacrificateurs par sa connaissance de cette parole. Pourquoi? Il était la parole, voyez, il était la parole. Il n'a jamais écrit de livre. Il n'a jamais écrit un. Il n'a jamais écrit un mot. Le seul mot qu'il ait jamais écrit, je pense, il l'a effacé dans le sable lorsqu'une femme avait été surprise en adultère. Il n'a jamais écrit un mot. Pourquoi? Il était la parole. Voyez? Il était la parole. Il n'avait pas besoin de l'écrire. Sa vie l'a vécu. Il était la parole. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, alors ne me croyez pas. Voyez? Si je ne fais pas exactement ce que la parole a dit que je ferais, alors je ne suis pas la parole. Mais si, c'est ce qu'il voulait dire. Il est la parole. Bon, maintenant, préparez-vous pour le service de guérison qui vient et de communion. Nous serions heureux que vous restiez avec nous, si vous le pouvez. Sinon, nous allons terminer aussitôt. N'oubliez pas, priez pour moi et priez pour mon épouse, la femme la plus gentille du monde entier, et pour mes enfants. Et maintenant, je les ai réclamés, chacun d'eux, pour le Seigneur Jésus. Bon, Becky est arrivée à cet âge, la petite Riquetta, vous savez, et juste une petite ado, comme on appelait ça. Et puis, elle est arrivée à cet âge, mais... Bon, c'est une jeune fille très gentille, et j'en remercie le Seigneur. Elle ne fume pas, ne boit pas, ne sort pas, ni rien. Elle est arrivée à cet âge, elle est insouciante. Elle ne veut pas aller à l'église, et si elle y va, elle s'assoit là en arrière et mange du chewing-gum, puis elle se lève et sort dehors. Ça, voyez, je veux l'avoir rempli du Saint-Esprit. Je veux voir Joseph. Je veux que ce garçon... Je crois qu'un jour, quand je ne pourrai plus monter en chaire, je veux prendre cette vieille Bible usée, la lui remettre en disant, « Joseph, tiens-toi-en à cela, fiston. » Alors je serai prêt à partir. Je veux entendre un vent souffler quelque part, lever les yeux, faire signe de la main, m'envoler. Prions. Dieu notre Père, toute notre vie est absorbée dans cela, car c'est toi et tu es notre vie. Maintenant, il y en a ici, Seigneur, qui détiennent même ce signe dont j'ai parlé. Ils ont possédé ce signe et pourtant ils sont malades. Et ce soir, je veux parler pour leur donner du courage, pour les encourager à s'emparer de ces droits que Dieu leur a donnés. Ils ont le droit de vaincre le diable. Il est déjà vaincu. Il ne fait que les bluffer. Je le réclame, Père. Maintenant, aide-moi à prononcer la parole. Parle à travers moi, Seigneur, avec ces quelques notes que j'ai inscrites ici, ces petits passages à l'Écriture. Je te prie de m'aider, Seigneur, à entrer dans la parole et à leur donner la foi pour la gloire de Dieu. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Maintenant, rapidement, j'aimerais que vous preniez dans la Bible le livre de Jérémie au chapitre 29, si vous voulez lire. Ou sinon, notez-le simplement. Jérémie chapitre 29. Et nous allons commencer au verset 10 de Jérémie, le verset 10 du chapitre 29. Aussi, nous allons lire dans Luc, chapitre 16, à partir du verset 14. Maintenant, je vais vous donner mon sujet pendant que vous prenez la page. Mon sujet de ce soir, c'est « Quand c'est une question de vie ou de mort? » De vie ou de mort? Et bon, vous savez ce que c'est quand c'est une question de vie ou de mort. Et maintenant, nous allons lire dans Jérémie au chapitre 29, le verset 10. Car ainsi parle l'Éternel, dès que 70 ans seront écoulés à Babylone, je me souviendrai de vous, et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ce lieu. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous. C'est agréable, non? Dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir reconnu. Vous m'invoquerez et vous partirez, et vous me prierez, et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes nations et de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel, et vous ramènerai dans le lieu où je vous avais fait emporter captif. Un retour à la Pentecôte. J'ai moi-même introduit ça. Ça ne dit pas ça. C'est ce que je voulais dire à l'Église. Luc 16, en commençant au verset 15 ou au verset 16. La loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Depuis lors, le royaume de Dieu est annoncé et chacun use de violence pour y entrer. Chaque homme use de violence pour y entrer. Il n'y entre pas simplement en marchant facilement, mais on doit y entrer en usant de violence. Voyez? Maintenant, quand vous me chercherez de tout votre cœur, alors vous me trouverez. Il a promis qu'il reviendrait et ramènerait les gens en provenance de tous les coins de la terre. Après ses 70 ans, il les ramènerait à Jérusalem d'où ils étaient partis. Et il l'a fait exactement comme ça. C'est vrai. Maintenant, nous allons parler de quand c'est une question de vie ou de mort. Pendant quelques minutes ici, généralement, il faut un état d'urgence pour que ce soit une question de vie ou de mort. Voyez, c'est dommage qu'il en soit ainsi, mais les êtres humains sont tellement fainéants dans leur esprit qu'il faut un état d'urgence. Quelque chose survient, et quand il se retrouve dans cet état, alors ça devient une question de vie ou de mort. Et vraiment, en étant confronté à une question de vie ou de mort, ça fait ressortir la chose réelle que vous êtes. Cela montre de quoi vous êtes fait, quand c'est une question de vie ou de mort. Cela fait généralement ressortir toutes les bonnes choses qui sont en vous. À l'heure de la mort, j'ai entendu des gens, lorsqu'ils savaient qu'ils allaient mourir, les choses qu'ils avaient gardées secrètes toute leur vie. Face à la question de vie ou de mort, ils essayaient de les confesser. Voyez? Et essayaient. Prends ceci, va régler la situation. Vas-y, s'il te plaît, vas-y, fais-le. Voyez, quand c'est une question de vie ou de mort. Ils auraient dû faire cela avant, voyez, et non pas attendre qu'une situation d'urgence arrive. Veux-tu faire telle et telle chose pour moi? L'urgence provoque la question de vie ou de mort, alors que nous devrions le faire sans urgence. Maintenant, nous remarquons ce soir que nous prenons les symboles de la Pâque. Et la Pâque a été prise dans une situation d'urgence, dans des moments où c'était une question de vie ou de mort. Si vous remarquez dans Exode, chapitre 12, et le verset 11 du chapitre 12, je crois que c'est ça, il est dit « Mangez cette Pâque, les souliers aux pieds, vos reins saints et le bâton à la main. » Voyez, vous la mangez alors que c'est une question de vie ou de mort. Ils avaient vu la grande main de Dieu, ils avaient vu tous ces miracles, et puis ils étaient venus sous le signe du signe. Et pendant qu'ils étaient sous le signe du signe, ils ont pris la communion alors que c'était une question de vie ou de mort, car ils savaient à ce moment-là que le jugement de Dieu allait bientôt frapper. Et c'était un temps d'appréhension. C'était un temps où chaque homme s'examinait, parce que la parole du prophète n'avait jamais failli une seule fois. Elle avait été prouvée vraie. Quoi qu'il disait, ça arrivait exactement comme il l'avait dit. La colonne de feu était encore là. Et alors, le prophète avait annoncé que Dieu passerait par-dessus vous que lorsqu'il verrait le signe à la porte. Et c'était une question de vie ou de mort. J'imagine que les enfants étaient, quand ils ont vu ces grandes ailes noires descendre du ciel comme une fumée qui venait recouvrir la ville, les cris qui venaient de toutes les maisons, les enfants ont dû s'approcher de leur papa et lui dire, « Papa, es-tu sûr que nous sommes sous ce signe? » Et ils pouvaient aller à la porte, regarder le montant, le linteau et dire, « Fiston, c'est selon sa parole. Souviens-toi, je suis ton aîné, papa, es-tu certain? » « Je suis certain. C'est selon ce que le prophète nous a dit. Et il a la parole du Seigneur. Il a dit, « Quand je verrai le sang, je passerai par-dessus vous. Prenez un agneau pour la maison. Je vous ai tous fait entrer, mes enfants. Tu es mon aîné, mais mon premier-né. C'est celui qui est en train de mourir là-dehors. Mais voici le sang. C'est ce qui était, ainsi dit le Seigneur. Alors repose-toi, mon fils, sois tranquille, parce que Dieu a fait la promesse. » Voyez? Eh bien, papa, pourquoi as-tu mis ta chaussure? Pourquoi as-tu le bâton dans ta main? Pourquoi as-tu un morceau de pain dans une main et d'agneau dans l'autre? Pourquoi ces herbes amères et tout ça? Pourquoi les manges-tu? Pourquoi est-ce que la sueur coule de ton visage? Fiston, la mort est sur le point de frapper. Voyez, c'était un temps de questions, de vie ou de mort. Maintenant, je crois que nous vivons dans les jours où nous sommes, ou autrement dit, les jours où nous vivons devraient amener l'Église dans une condition où cela devient complètement une question de vie ou de mort. Je crois, depuis le message de ce matin, de Dieu, pas de moi, je crois que cela devrait mettre toute cette assemblée dans une condition de vie ou de mort que nous avons joué assez longtemps. Nous sommes allés à l'Église assez longtemps. Nous devons faire quelque chose. Comment se fait-il que nous puissions voir d'autres grands signes et prodiges s'accomplir sur d'autres? Qu'en est-il de nous? Cela devrait devenir une question de vie ou de mort pour nous. Nous sommes déterminés devant Dieu. Les signes de sa venue devraient amener toute cette assemblée. Alors que nous l'avons lu dans la parole, le Saint-Esprit nous a dit, « Allez à un certain endroit, telle et telle chose arrivera. » Pas nous dire ce que c'était, mais que cela arriverait. Nous allons là-bas et ça s'accomplit à la lettre. Les journaux en parlent, les magazines en parlent, en montrent la photo. On revient ici et on voit ces grands mystères cachés dans la Bible, ouverts pour nous, sur un nouvel horizon que nous ne connaissions pas auparavant et qui s'harmonise parfaitement avec la venue du Seigneur Jésus. Puis, à la fin des messages, de voir l'agissement du grand Saint-Esprit, le voir descendre visiblement devant les gens et même d'en prendre des photos, de le voir à l'œuvre et montrer que ce n'est pas un homme, ce n'est pas seulement un prédicateur, ce n'est pas une certaine assemblée, c'est le Saint-Esprit qui montre la même chose qu'il faisait quand il était incarné dans le corps de Jésus-Christ. Maintenant, il est incarné dans le corps de son épouse. Cela devrait devenir une question de vie ou de mort pour nous. Ces gens avaient vu la main de Dieu, et ce soir de communion-là, ils l'ont prise avec, alors que c'était une question de vie ou de mort, parce qu'ils savaient que quelque chose était sur le point d'arriver. Et nous savons que quelque chose est sur le point d'arriver. Et souvenez-vous, la venue du Seigneur sera un départ soudain et secret. Il viendra la prendre comme un voleur dans la nuit. Et de penser que si quelqu'un, soudainement, il y a des membres de notre famille qui sont enlevés et que vous êtes laissés derrière. Cela devrait être une question de vie ou de mort pour nous, afin que par la grâce de Dieu, nous ne soyons pas laissés derrière. S'il y a quelque chose que je ne veux pas, ne me laisse pas, Seigneur. Il y a quelques jours, j'entendais Mel Johnson chanter ce chant. Souviens-toi de moi quand mes larmes coulent, oui. Souviens-toi de moi quand je suis solitaire, quand je traverserai le Jourdain, quand tu appelleras les tiens, souviens-toi de moi. Et dans le livre de vie de l'agneau, je veux que mon nom soit écrit. Je veux qu'il se souvienne de moi lors de l'appel. Et cela devient une question de vie ou de mort pour moi. C'est, comme Paul l'a dit, après avoir prêché l'Évangile, serais-je un passager clandestin, serais-je un rejeté? Ça pourrait arriver. Alors, ça me met dans un état de détresse, cela devient une question de vie ou de mort. De penser qu'après toutes ces années de prédication, pourrais-je un endroit où je pourrais lui faire défaut? Quelle est la prochaine étape? Que dois-je faire ensuite? Tout ça me met dans un état de nervosité. Et qu'est-ce que je peux faire? Ça m'envoie par mon et par vous. Et c'est difficile parce que quand je suis avec les gens, je dois être tout pour tous les hommes, afin d'en gagner quelques-uns à Christ, tout en ayant toujours ce signe devant moi. Voyez? Et je vois des choses qui arrivent et vous ne pouvez pas le dire aux gens. Vous voyez différentes choses, mais ça vous est défendu. Ces visions qu'ils évoquent, et parfois ils regretteraient que vous leur en parliez. Ils vous connaissaient mieux que de faire ça. Et puis vous avez tellement de visions que tout devient une vision, et ça vous met dans un état de nervosité. Vous regardez et dites, bon, est-ce que je suis dans une vision? Comme d'être assis juste ici, est-ce une vision? Où est-ce que je suis réellement? Voyez, vous surmenez, vous vous en imposez trop. et vous découvrez des choses sur les gens que vous auriez souhaité ne pas avoir, ne pas savoir. Les gens qui désirent ces choses, de connaître ces choses et ne se rendent pas compte de ce que coûte ce genre de ministère. Vous ne savez pas ce qui va avec. Alors cela devient une question de vie ou de mort. Seigneur Dieu, je sais que je vais devoir répondre. Jack Moore m'a dit une fois, « Je n'aimerais vraiment pas avoir à répondre comme tu auras à répondre au jour du jugement. » Il a dit, « Dieu a remis ces gens entre tes mains et tu vas devoir rendre compte de chacun d'eux. Tu vas répondre de ton ministère. » C'était il y a une quinzaine d'années, peut-être 18. Et depuis lors, cela a été une question de vie ou de mort pour moi. Qu'est-ce que je vais faire? Laisse-moi dire seulement ce que tu dis, Seigneur, que je leur dise la vérité ou que je ne dise rien. C'est une question de vie ou de mort pour moi. Alors, en voyant venir ces signes, en voyant le Saint-Esprit nous emmener là-bas et apporter ces seaux, et les placer là-dedans comme ça, amener les âges à l'église et les disposer, puis descendre dans une grande colonne de feu au fond là-bas, et se révéler, puis descendre sur la chose suivante, sur les 7 seaux, et les révéler, même en parler dans les journaux et les magazines. Ensuite, entrer et prendre les anges de Dieu, ces 7 anges avec 7 messages, et le confirmer exactement avec ce que la Bible dit, et puis, pendant ce temps-là, venir apporter ces seaux, ces signes, ces feux clignotants du temps de la fin, et l'apporter aux gens et leur dire ce que c'est. Et tout à ce sujet, le Seigneur œuvrant juste là, montrant qu'il est présent. Et puis tout le long, comme ce matin, venir exiger ce signe sur chaque personne. Vous êtes donc les miens. Vous êtes ceux que j'aime, ces gens-ci et ceux qui écoutent les bandes, et tout. Alors vous voyez pourquoi cela est une question de vie ou de mort pour moi. Question de vie ou de mort. Les signes de sa venue, cela devrait devenir une question de vie ou de mort pour tous les membres de Christ, pour ce qui est de nos âmes, de notre bonheur dans l'au-delà. Eh bien, en quoi nous serait-il profitable de gagner le monde entier? Que sommes-nous? Pourquoi vivons-nous? Pourquoi travaillez-vous? Pourquoi mangez-vous? Pourquoi luttez-vous? Pour vivre? Pourquoi vivez-vous? Pour mourir? Et vous n'êtes pas prêt à vivre tant que vous n'êtes pas prêt à mourir. C'est vrai. Et nous voyons tellement de miracles de guérison, cela devrait devenir une question de vie ou de mort pour nous. Si ce petit garçon, suis-je en train de regarder Mme Peckinpah? Est-ce Mme Peckinpah? Est-ce vous qui avez amené ce garçon ici ou quelque chose comme ça? Eh bien, voici la femme dont je parlais assise juste ici. Je me suis adonné à jeter un coup d'œil et je l'ai vue. Or, si Dieu peut faire ça pour ce petit garçon, ça vous devrait devenir une question de vie ou de mort pour vous. Madame de New Albany, ce peut qu'il soit ici ce soir, c'est un ami de mon frère Roberson. Il avait un petit garçon ici, je pense que sa femme a eu un cancer et qu'elle a été guérie. Et maintenant, le petit garçon est tellement asthmatique qu'il est vraiment mal en point. Un petit bonhomme, la gorge presque cancéreuse lui-même, voyez, et puis il a amené le petit garçon. Oui, je vois sa main levée à l'arrière, là derrière, pour qui on a prié ce matin, voyez. Une question de vie ou de mort. Quand sa femme était sur le point de mourir du cancer, elle savait que Dieu pouvait la guérir. Et si Dieu a pu guérir sa femme, Dieu pouvait guérir le garçon. Et cela a engendré une question de vie ou de mort. Voyez, vous devez venir. Et quand c'est une question de vie ou de mort, c'est là que Dieu va vous écouter. Mais si vous êtes simplement fainéant, ça vous importe un peu qu'il le fasse ou pas, eh bien, alors c'est différent. Vous dites que vous l'êtes, mais il faut que ce soit une question de vie ou de mort pour y arriver. Je crois que la raison pour laquelle ce n'est pas une question de vie ou de mort, c'est à cause d'un manque d'amour. Dieu, l'amour de Dieu. Je pense que l'amour de Dieu produit cette question de vie ou de mort. Si Dieu est en vous, le signe à l'intérieur de vous, et que vous voyez les conditions actuelles et les gens qui pataugent dans le péché comme ils le font, cela devient une question de vie ou de mort. Je le crois. Or, la parole dit clairement, si vous voulez le noter, dans Galates 5, 6, que la foi agit par l'amour. Voyez, la foi agit par l'amour. Et le seul moyen pour vous d'avoir la foi, c'est de premièrement avoir l'amour. Parce qu'après tout, la foi incite à l'amour. Une incitation, c'est exactement ce qu'est la foi. Elle incite à l'amour. Bon, vous, si vous n'avez pas l'amour, vous ne pouvez pas avoir la foi. Voyez? Comment pouvez-vous avoir foi en votre femme si vous ne l'aimez pas? Ça, c'est dans le philéo. Maintenant, qu'en est-il de l'agapao pour Dieu? Comment est-ce possible si vous n'aimez pas Dieu? Si vous dites que vous aimez votre femme et que vous ne lui dites jamais, que vous ne vous asseyez jamais avec elle pour lui montrer votre amour, le lui exprimer, l'embrasser, la serrer dans vos bras et lui dire qu'elle est la meilleure cuisinière du pays, toutes les choses que vous savez et combien elle est jolie et combien vous l'aimez. Si vous ne le faites pas, elle ne le saura jamais. C'est comme ça. Si vous l'aimez vraiment, vous l'exprimez. C'est comme ça que nous faisons avec Dieu. Quand nous l'aimons, nous lui disons. Nous nous essayons et nous l'adorons, nous le louons. Et voyez, l'amour nous pousse à le faire. Et qu'en serait-il si quelque chose devait être fait pour votre femme? Eh bien, cela deviendrait une question de vie ou de mort pour vous, afin que cela soit fait. Et si quelqu'un disait que votre femme a le cancer? Et si quelqu'un disait que votre femme a la tuberculose et qu'elle est sur le point de mourir? Malgré tout, vous feriez n'importe quoi. Voyez, ça deviendrait une question de vie ou de mort pour vous. Et c'est la même chose pour ça. Nous devons avoir l'amour avant de pouvoir avoir la foi. Et la foi, quand nous avons l'amour authentique, qu'est-ce que ça fait? Cela pousse notre foi au front de bataille pour Dieu. Vous voyez, l'authentique amour divin pour Dieu, pour sa parole et pour son peuple, pousse la foi à aller de l'avant. L'amour s'empare simplement de la foi et juste, allez, allons-y. Et voilà, elle part, parce que c'est ce que fait l'amour. Dans Jean 14, 23, Jésus a dit, « Si un homme m'aime, il gardera mes paroles. » Et vous ne pouvez pas garder ses paroles sans avoir foi en ce qu'il a dit. Alors vous voyez, s'il aime Dieu, alors il garde la parole de Dieu. S'il a dit « Je suis l'Éternel qui t'a guéri », il le croit. L'amour l'amène à le croire parce que l'amour domine tout. Quand je parlerai la langue des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, ce n'est rien. Vous voyez, même si j'avais la foi pour déplacer des montagnes et que je n'ai pas l'amour, ce n'est rien. L'amour domine tout parce que Dieu est amour, un Dieu d'amour. Bon, oui, monsieur, si Jésus a dit « Si un homme m'aime, il gardera mes paroles. » Nous savons qu'il est vrai que Dieu va répondre quand c'est une âme désespérée. Ça, nous le savons tous. Mais il faut généralement quelque chose pour nous pousser à cela, dans cette détresse, pour être désespéré. Quelque chose doit le faire. Nous voyons dans Jacques 5, 15 que la Bible dit que la prière fervente, c'est-à-dire que c'est l'énergie du désespoir. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Quand un homme juste, un homme bon, se met en travail, ou un fardeau pour les âmes, ou en travail, l'un ou l'autre, je pense que le mot « en travail » est un meilleur mot. Fardeau ou en travail, quel que soit le mot que vous choisissez, mais quand une âme devient désespérée, en travail, la prière fervente et efficace de cet homme qui peut présenter le signe, ça produit quelque chose. Voyez, remarquez ce que la Bible dit ici aussi dans Jacques 16, 5, 16, ça dit ici, confessant nos fautes, nous mettant en règle, nous préparant pour cela, confessant nos fautes les uns aux autres, n'ayant aucune faute. Demandez aux gens de prier pour vous, confessant nos fautes les uns aux autres et priant les uns pour les autres. Voilà, avec amour. L'amour, car j'ai confiance que je peux vous confesser mes torts et que vous pouvez me confesser vos torts et que je vous aime assez, que je vais prier pour vous et que vous prierez pour moi. Et nous nous en tiendrons à cela avec une prière fervente et efficace jusqu'à ce que ce soit exaucé. Voilà, quand c'est une question de vie ou de mort, c'est ça que nous devrions avoir en tout temps. Prenons quelques exemples scripturaires de ça. Ce qui s'est passé là pour encore une quinzaine de minutes, si le Seigneur le veut. Jacob, c'était un homme, pour commencer, c'était un petit, plutôt un garçon insouciant. Il avait dans son esprit qu'il savait que le droit d'aînesse représentait tout pour lui. Et il ne se souciait pas de savoir comment il allait l'obtenir en autant qu'il l'obtienne. Et après l'avoir obtenu, il a pensé que tout allait bien, parce qu'il avait le droit d'aînesse. Il pensait que tout était réglé. Il est allé voir son frère alors que celui-ci était affamé. Il revenait des champs, après s'être occupé du bétail et d'avoir chassé les cerfs. Et son frère, il avait besoin d'un grand bol de lentilles, de pois sauvages et tout ça. Ça devait être très tentant pour un homme affamé après avoir marché toute la journée. Et son frère a dit, « Je suis presque sur le point de m'évanouir. Donne-moi un peu de ça. » Il a dit, « Eh bien, si tu me jures que j'obtiendrai le droit d'aînesse, voyez, il ne se souciait pas de comment l'obtenir en autant qu'il l'obtienne. Et il pensait que lorsqu'il aurait obtenu le droit d'aînesse, que ce serait réglé. Vous, les pentecôtistes, c'est là que vous avez échoué. Vous avez pensé que parce que vous êtes né de l'Esprit de Dieu, le droit d'aînesse, que c'était réglé. Mais ça n'a fait que commencer la chose. Vous vous souvenez dans le message sur Écoutez-le, comment l'enfant, après être né dans la famille, est devenu un fils. Il avait droit au droit d'aînesse, mais il fallait qu'il fasse ses preuves, qu'il soit formé. Et alors, s'il ne s'avérait pas être un enfant obéissant à la volonté de son père, alors il fallait, eh bien, il n'obtenait pas ne devait pas hériter. Ne devenait pas héritier. Il n'héritait de rien. Pourtant, il était un fils, mais il n'héritait de rien s'il ne s'intéressait pas aux affaires du père. Et donc, quand le Saint-Esprit est descendu sur les pentecôtistes et qu'ils ont commencé à restaurer les dons et ces choses qui étaient dans l'Église, ils pensaient que parce qu'ils étaient nés de l'Esprit, que c'était réglé. Mais voyez-vous, il y a le placement d'un fils. Et après que ce fils s'était avéré être un véritable fils, alors il était emmené dans un lieu public, et ensuite on l'installait à un endroit surélevé, et on changeait sa robe, et on l'installait là-haut. Et ensuite, il y avait le placement du fils, qu'il était héritier de tout ce que le père possédait. Dieu a fait la même chose avec son fils sur la montagne de la Transfiguration. Il a été couvert par une nuée, et a été transfiguré, et son vêtement brillait comme le soleil, et une voix a dit, « Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Moïse et la loi avaient échoué. Et le voici, écoutez-le. Il était placé. Voyez? Donc Jacob pensait, parce qu'il avait le droit d'aînesse, que tout était joué. Les pentecôtistes aussi, ils ont commencé à s'organiser, les unitaires, les trinitaires et les trinitariens, et toutes sortes d'organisations, et les disputes et les tiraillements les uns envers les autres, prouvaient que le signe n'était pas présenté. La méchanceté, l'envie, les querelles, voyez, mais c'est là que ça s'en est rendu. Maintenant, voyez-vous, Jacob pensait la même chose. Mais une nuit, craignant pour sa propre vie, la question de vie ou de mort s'est emparée de lui à la pensée que, juste de l'autre côté de la rivière là-bas, mon frère m'attend pour me tuer. Il va faire, voyez, le droit d'aînesse qu'il avait obtenu était la chose qui allait causer sa mort. Et parfois, la chose même que vous recevez, comme le Saint-Esprit, ça l'est, et vous êtes né de nouveau de l'Esprit, si vous ne faites pas attention, cette même chose vous condamnera à la fin. C'est vrai, les mêmes eaux qui ont sauvé Noé ont condamné le monde. La chose que vous appelez du fanatisme pourrait être la chose même qui vous condamnera au bout du chemin. Maintenant, Jacob savait que sa vie tirait à sa fin. Il avait un messager qui était venu lui dire que son frère, accompagné de 400 hommes armés, venait à sa rencontre. Il savait qu'il était en route. La peur s'est emparée de lui. Il a envoyé des hommes avec des bœufs, des bêtes et des brebis pour faire une offrande de paix avec Ésaü. Puis après ça, il a envoyé un autre groupe avec une autre cargaison de choses. Puis il a envoyé un autre groupe avec une autre cargaison de choses pour qu'il le rencontre en premier pour apaiser sa colère. Puis il s'est mis à penser, ça ne l'arrêtera pas parce qu'il est probablement plus riche que moi. Il n'en a pas besoin. Alors il a pris ses femmes et ses jeunes enfants et les a fait traverser afin qu'Ésaü voie ses petits-enfants et ses femmes. Et certainement que ses propres petites nièces et neveux, il ne les tuerait pas. Alors il ne pouvait toujours pas le faire. Dieu sait comment atteindre un homme. Jacob a traversé le torrent. Là, il s'est agenouillé. Vous savez, il avait été un genre de petit filou avant ça. Pardonnez-moi cette expression, mais un genre de petit... C'était un Jacob. Jacob veut dire un trompeur, et c'est ce qu'il était. Mais il fallait que quelque chose lui arrive. Là, avec l'énergie du désespoir, là, alors qu'il faisait face à la mort, il se peut qu'il y ait des hommes et des femmes assis ici ce soir qui font face à la mort. Et le seul moyen pour vous d'être capable d'atteindre ce que vous voulez, c'est de venir désespérément. Je dois l'avoir ce soir. Je dois l'obtenir maintenant, sinon je suis fichu. Demain sera trop tard, il me le faut maintenant. Quand vous priez pour le baptême du Saint-Esprit, le signe, ne dites pas, eh bien, maintenant, je vais m'avancer et essayer. Seigneur, je suis un peu fatigué. Ô miséricorde, restez à votre place. N'essayez même pas. Si vous venez en disant, je vais passer dans la ligne de prière, on mettra de l'huile sur ma tête, je vais voir si je me sens mieux. Autant rester assis où vous êtes. Jusqu'à ce que vous arriviez au point, jusqu'à ce que toute l'Église arrive au point où c'est une question de mort ou de vie. Vous devez l'avoir maintenant, sinon vous périrez. Alors Dieu entrera en scène. Il faut être désespéré pour amener Dieu sur la scène. Jacob a pleuré comme jamais auparavant. Il a imploré désespérément jusqu'à ce qu'il parvienne à joindre Dieu. Et quand il y est parvenu, il a lutté. Pas pendant 15 minutes, il a lutté pour le garder dans son âme toute la nuit. Et pourtant, il savait qu'il n'avait pas la bénédiction. Il a pu tenir bon jusqu'à ce que vienne la bénédiction. Il a lutté désespérément jusqu'à ce que vienne la bénédiction. Et là, quand il a vu, jusqu'à ce que Dieu entre en scène. Et alors, avec l'énergie du désespoir, « Je ne te laisserai pas partir », quand il a commencé à sentir la bénédiction descendre sur lui. Bien, des gens disent « Gloire à Dieu, je l'ai maintenant. » Vous voilà séduit. Oui. Quelqu'un dira « Oh, je me sens tellement bien, frère Branham, je suis allé prier là-bas. Oh, j'ai eu des frissons. » C'était peut-être Dieu. J'ai vu une grande lumière devant moi, peut-être que cela aussi était Dieu, mais ce n'est pas de ça que je parle. La Bible dit dans Hébreux chapitre 6, « La pluie tombe sur les justes et sur les injustes, de la même manière. » Maintenant, prenez du blé et prenez des mauvaises herbes et mettez-les dans le champ. Et la pluie est envoyée pour le blé. Mais la pluie tombe sur les mauvaises herbes tout comme elle tombe sur le blé. Et la pluie et les mauvaises herbes sont tout aussi heureuses que la pluie que le blé. Sont tout aussi heureuses de la pluie que le blé. Et c'est exactement la même pluie. Le même Saint-Esprit peut descendre sur un incroyant et le faire agir exactement de la même manière qu'un croyant. Mais c'est à leurs fruits qu'on les reconnaît. C'est de ça que je parle, c'est le signe. Et Jacob, plutôt, avec l'énergie du désespoir, il a dit, « Je sais que je t'ai ressenti, tu es ici avec moi, mais je ne te laisserai pas partir. » Quelqu'un le voit bien, à la première petite sensation, il se lève et saute de haut en bas, court dans l'allée et s'écrie, « Je l'ai. » Oh non, non. Jacob est resté là jusqu'à ce que quelque chose se produise, qu'il l'a fait marcher différemment, qui a fait de lui une personne différente parce qu'il est resté jusqu'à ce que cela se produise. Et il a été capable. La Bible dit, il a tenu bon jusqu'à ce qu'il ait prévalu. Comment un homme peut-il prévaloir contre Dieu? Mais vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire. Un homme peut prévaloir contre Dieu. Une fois, il y avait un homme du nom d'Ézéchias, à qui le prophète avait dit, « Ainsi dit le Seigneur, tu vas mourir. » Ézéchias a tourné son visage contre le mur et désespéré, il versa d'abondantes larmes. « Seigneur, considère-moi. J'ai marché devant toi avec intégrité de cœur et il me faut encore 15 ans, après que Dieu lui ait dit que quelque chose allait se produire, qu'il allait mourir. » Et désespéré, il a changé le programme de Dieu. Être désespéré, même s'il a pleuré amèrement sous l'énergie du désespoir. Jacob est resté là jusqu'à ce que vienne la bénédiction. Il a changé son nom de supplanteur à prince avec Dieu. Même la nation a été nommée d'après son nom. Oui, monsieur. Qu'est-ce que c'était? Les résultats venaient du fait qu'il était désespéré à ce sujet. Le lendemain, quand il est allé au-devant d'Ésaü, il n'a pas eu besoin de garde. Il est allé directement à sa rencontre. Voyez pourquoi il était désespéré jusqu'à ce qu'il reçoive l'assurance. Et vous aussi, soyez désespéré jusqu'à ce que vous receviez l'assurance. Si vous ne l'êtes pas, ne venez même pas pour que l'on prie pour vous. Ne venez même pas à l'autel. Attendez que ce soit pour vous une question de vie ou de mort. Et là, quelque chose se produira. Certainement, à être désespéré. Ruth était désespérée une fois alors qu'elle était auprès de Naomi. Est-ce qu'elle allait retourner vers son peuple, vers tout ce qu'elle aimait ou tout ce qu'elle adorait, ses yeux et son peuple, ou allait-elle rester accrochée à Naomi? Que devait-elle faire? Et l'énergie du désespoir l'a saisie et elle s'est écriée, « Là où tu iras, j'irai. Où tu vivras, je vivrai. Où tu mourras, je mourrai. Où tu seras enterré, j'enterrerai. » Où je serai enterré, et ton Dieu sera mon Dieu. Voilà, désespéré. Dieu l'a béni et il lui a donné un fils, Obed. Obed engendra Isaïe, Isaïe engendra par Isaïe, est venu Jésus. parce que c'était une question de vie ou de mort. Comme la petite prostituée Rahab, elle était désespérée. Elle savait que la mort l'attendait. Elle faisait face à un jugement. Et elle est devenue désespérée. Elle a dit, je vais vous cacher, espion. Je ferai n'importe quoi, seulement jure devant ton Dieu que ma maison subsistera. Voilà. Il a dit, si tu acceptes ce signe, elle subsistera. Éliézer est devenu désespéré quand on lui a confié la responsabilité de chercher une épouse pour Isaac. Éliézer de Damas était un grand homme. Il était favorisé par Abraham et Abraham lui faisait confiance pour qu'il aille chercher une épouse appropriée pour son fils Isaac. C'est de là que viendra Christ. Or, Éliézer étant un homme spirituel, il savait ce que cela impliquait. Une femme appropriée devait devenir la femme de cet homme. Et comment la choisirait-il? Au moment où il était le plus désespéré. Quand il est arrivé à la ville, il a prié et a dit, « Seigneur Dieu, voilà ce qu'il faut. Quand vous êtes désespéré, mettez-vous à prier. Seigneur Dieu, que la première jeune fille qui viendra et qui donnera à boire au chameau et me donnera à boire soit celle-là. » Il a prié au moment où il était le plus désespéré. Rebecca, la belle jeune fille, est venue, a abreuvé le chameau, et alors il a dit, « Ne me retarde pas dans mon voyage. Il fallait qu'elle en arrive à un moment de décision, si elle irait ou pas. » Elle était un type de l'épouse. Est-ce qu'elle irait pour épouser un homme qu'elle n'a jamais vu? Ça, c'est une grande chose. Elle ne l'avait même jamais vu, mais elle avait simplement entendu parler par son serviteur. C'est un type de l'épouse. Vous n'avez jamais vu Christ, mais vous entendez par ses serviteurs qui il est. Vous vendez tout, vous quittez vos maisons, tout ce qu'il faut pour aller le trouver. Maintenant, remarquez, elle a pris la décision, un type de l'épouse, elle a quitté son foyer dénominationnel, voyez, pour y aller. Jonas, jeté par-dessus bord durant une tempête au fond de la mer, dans le ventre d'une baleine. Il n'y avait plus aucun espoir de survie. Mais il lui est venu à l'esprit que Salomon, en consacrant le temple, avait dit, « Seigneur, si les gens ont des ennuis en quelque lieu que ce soit, et qu'ils se tournent vers ce temple pour prier, alors exauce-les. » Et en se retournant dans le ventre de la baleine, il a réussi à se mettre à genoux, j'imagine, avec du vomi de la baleine partout sur lui. Là, il a prié. C'était une question de vie ou de mort. Et se désespérer, juste avec quelques bouffées d'oxygène, c'est tout ce qu'il avait dans le ventre de la baleine. Et entre ces quelques bouffées d'air qu'il prenait, peut-être qu'il ne savait pas dans quelle direction il était. Il a dit, « Seigneur, je crois que je regarde en haut vers ton temple. » Et alors qu'il ne restait que quelques bouffées d'air, c'était une question de vie ou de mort. Il a prié dans ces circonstances. Ça n'avait jamais été fait auparavant, mais il était désespéré. Il a prié et Dieu l'a gardé en vie pendant 3 jours et 3 nuits et l'a amené à l'endroit où il devait apporter son message. Une question de vie ou de mort. Anne, une femme stérile dans la Bible, elle voulait avoir un fils et elle s'est mise à jeûner pour lui. Et elle a jeûné et prié au point que même le sacrificateur dans le temple pensait qu'elle était ivre. Elle était tellement désespérée. Alors que les autres femmes regardaient quelle sorte de bonnet l'autre portait, et vous savez comment c'est, et l'autre voyait quel genre de vêtements qu'elle portait, et elle parlait des choses qui se passaient sur la ferme, mais pas Anne. Elle s'est frayé un chemin à travers toute la foule et est allée à l'hôtel. Elle avait jeûné. Elle voulait que son opprobre lui soit enlevé. Quelle différence aujourd'hui. C'est presque un opprobre d'avoir un enfant. Mais là, c'était un opprobre de ne pas en avoir. Et elle s'est agenouillée. Et elle ne portait pas attention à la dignité du temple. Elle n'a pas remarqué ce sacrificateur de haut rang alors qu'il sortait. Elle était dans une telle détresse que ses larmes coulaient sur ses joues et elle pleurait désespérément. « Oh, Seigneur Dieu, donne-moi un fils, donne-moi un fils. » Et remarquez, elle n'était pas égoïste. Quand Dieu l'a exaucé, qu'il a exaucé sa prière, il lui a donné un fils, elle l'a redonné à Dieu. Et parce qu'elle était disposée à ne pas être égoïste après que Dieu ait exaucé sa prière, il lui a donné un prophète. Oh, c'était une bénédiction supplémentaire. Oh, il en a tout plein de ces petites choses qu'il donne en plus. Pas seulement un fils, mais un prophète. Il n'y avait pas eu de vision ouverte depuis bien et bien des années en Israël. Samuel, le premier prophète, pendant bien et bien des années, parce qu'une mère était désespérée. De ne pas pouvoir avoir d'enfant, et qu'elle avait passé l'âge de procréer, probablement 60, 70 ans, et elle a prié avec l'énergie du désespoir, elle devait avoir cet enfant. Qu'est-ce que c'était? Dieu lui avait parlé, aucun doute. Vous ne pouvez pas être désespéré tant que Dieu ne vous parle. Oh, Église, levez-vous et secouez-vous. Pincez votre conscience, réveillez-vous en cette heure. Nous devons être désespérés ou périr. Il y a quelque chose qui s'en vient de la part du Seigneur. Je sais que c'est ainsi dit le Seigneur. Quelque chose est en train de se produire et nous ferions mieux d'être désespérés. C'est une question de vie ou de mort. Cela nous passera par-dessus la tête et nous ne le verrons pas. Parce qu'elle n'était pas égoïste. Il lui a été donné un prophète. La femme Tsunamite avait un petit garçon sur qui le prophète avait prononcé la parole du Seigneur, bien qu'elle était vieille et que son mari était vieux. Il n'avait pas d'enfant, mais elle était bonne envers ce prophète. Et elle savait que c'était un homme de Dieu. Elle avait reconnu qu'il était honorable, un homme intègre. Il est entré dans la maison, son mari n'était pas là et tout le reste. C'était un homme saint. Ils ont pu voir que c'était une personne honorable. Elle l'avait vu accomplir des signes et des prodiges. Elle l'avait entendu raconter des choses qui sont arrivées. C'était un homme honorable, un homme saint. Elle a dit à son mari, « Je vois que cet homme qui s'arrête chez nous est un homme saint. » La maîtresse de la maison, elle savait que c'était un homme saint. Et elle lui a construit une petite maison là-bas pour qu'il ne soit pas mal à l'aise. Il pouvait y venir quand il le voulait et ainsi de suite. Elle lui avait mis un petit lit et une cruche d'eau et tout pour qu'il puisse se laver et avoir quelque chose à boire. Et elle allait probablement envoyer la bonne ou quelqu'un, le majordome, avec de la nourriture pour le nourrir. Et elle passait lui dire « Passe une bonne journée » ou quelque chose comme ça. Et donc, quand Élie a vu cette bienveillance envers lui, il a écrit « Ce que vous faites à mes petits, c'est à moi que vous le faites. » Ainsi, elle a vu ça. La femme honorait Dieu en honorant ce prophète, car elle avait vu Dieu dans le prophète. Et ainsi, elle ne voulait rien en retour, ne désirait rien dans son cœur. Elle l'avait fait simplement parce qu'elle aimait Dieu. Elle ne l'a pas fait pour recevoir une bénédiction. Elle l'a fait simplement. Bon. Donc, Élie a dit, « Va lui demander. Dois-je parler au roi pour elle? Je suis son ami intime, ou au capitaine en chef. Je le connais très bien. S'il y a une faveur, quelque chose que je pourrais faire pour elle, je vais lui donner quelque chose pour la façon qu'elle agit envers moi. Elle m'a nourri. Elle m'a permis de dormir dans les lits et elle a été très gentille avec nous. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire? » Elle a dit, « Non, j'habite simplement parmi les miens. Nous sommes bien lotis. Nous avons un gagne-pain et cela nous suffit. Nous n'avons besoin de rien. » Et Géasi lui a dit, « Mais elle n'a pas d'enfant. » Aussitôt que Géasi l'a vu, nul doute que le prophète a eu une vision, car il a dit, « Ainsi dit le Seigneur, va lui dire qu'au temps voulu, ou au moment opportun, dans un an, elle embrassera un fils. » Et le fils est né. Quand il eut environ l'âge de 12 ans, combien ce vieux couple devait aimer ce petit garçon, leur unique enfant. Et un jour, il était en train de couper du blé avec son papa. C'était probablement vers le milieu du jour. Il a eu une insolation, je suppose, parce qu'il s'est mis à crier, « Ma tête! » Il était de plus en plus malade. Son papa a dû le sortir du champ. C'était d'une urgence telle qu'il a envoyé un serviteur pour la renvoyer à la maison. Sa mère l'a gardé sur ses genoux jusqu'à midi et il est mort. Remarquez, son enfant unique qui lui avait été donné par le Seigneur, par la prière et la promesse d'un prophète, et l'ainsi dit le Seigneur. Elle savait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas quelque part. Ça ne marchait tout simplement pas. Comment est-ce que Dieu lui aurait donné ce fils et laissé son amour grandir pour ce bébé? Malgré qu'elle ne l'ait jamais demandé, elle était trop âgée pour l'avoir. La main de Dieu devait le prononcer. Un homme l'a prononcé, le prophète. Et voilà ce petit dans cet état. Il était mort, son fils unique. Alors elle a dit au serviteur, « Selle-moi un mulet et vas-y et ne t'arrête pas. » Si quelqu'un essaie de t'arrêter, ne dis pas un mot. Il va directement au Mont Carmel. Là-haut, quelque part, dans une caverne retirée, il y a un serviteur du Dieu Très-Haut, celui qui m'a dit, ainsi dit le Seigneur, je vais avoir le bébé. Je veux savoir pourquoi Dieu a fait ça. Alors il a dit, va tout droit et ne ralentis pas ce mulet. Laisse-le courir de toutes ses forces. Laisse-le courir jusqu'à ce qu'on arrive là-bas. Une question de vie ou de mort. Et Élie, le prophète, s'est levé, a regardé et a dit, voici cette Tsunamite qui arrive. Et elle, il y a quelque chose qui ne va pas avec elle. Dieu me l'a caché, je ne sais pas ce qu'elle a. Il a dit, va à sa rencontre. Dépêchons-nous. Il y a quelque chose qui ne va pas. Le prophète était désespéré. La femme était désespérée. Voyez, ils allaient se rencontrer, celle qui voulait connaître ce qu'était la parole du Seigneur et l'autre qui ne savait pas ce qu'était la parole du Seigneur. Voilà. L'une voulait le savoir et l'autre ne le savait pas. La femme voulait le savoir et le prophète ne le savait pas. Il a dit, Dieu me l'a caché, je ne sais pas ce que je vais lui dire quand elle va arriver ici. Elle était presque arrivée. À ce moment-là, il a levé la main. Il a dit, est-ce que tout va bien pour toi? Tout va bien avec ton mari? Tout va bien avec l'enfant? Or, c'était devenu une question de vie ou de mort pour la femme. Elle a dit, tout va bien. Gloire, tout va bien. Elle n'était plus désespérée. Elle avait trouvé le serviteur du Seigneur. S'il n'avait pas été là, elle serait encore désespérée. Mais voyez-vous, il était là. Elle a dit, tout va bien. Il s'est dit, eh bien, qu'est-ce qui se passe maintenant? Alors, elle a accouru et est tombée à ses pieds. Ça semblait plutôt inhabituel. Alors, Géasi l'a simplement relevée. Il a dit, laisse-la faire, ne fais pas ça. Élie a dit à son serviteur, ne fais pas ça, laisse-la faire. Il y a quelque chose qui ne va pas, Dieu me le cache. Alors, elle lui a révélé que le bébé était mort. Là, le prophète ne savait pas quoi faire. Il a dit, Géasi, prends ce bâton avec lequel j'ai marché. Il savait que tout ce qu'il touchait était béni parce que ce n'était pas lui, c'était Dieu en lui. Il savait qui il était. Il savait qu'il était un prophète. Il a donc pris ce bâton et a dit, « Géasi, prends ceci et va le poser sur l'enfant. Et si quelqu'un te parle, c'est une question de vie ou de mort. » Il ne salue personne, ne laisse pas, continue simplement d'avancer, ne parle à personne, pose-le sur l'enfant. Mais la femme n'a pas cessé d'être désespérée. Ça ne satisfaisait pas la raison de sa venue. Elle a dit, comme le Seigneur Dieu vivant, je ne te quitterai pas tant que tu ne t'occuperas pas de l'enfant. Et Élie est devenu désespéré. Et le voici parti en route, lui et la femme. Et quand ils sont arrivés là, tout le monde était dans la cour en train de crier, de pleurer. Et la femme avait fait la chose la plus appropriée qui pouvait être faite. Elle a pris le bébé, l'a couché sur le lit où Élie avait couché. C'était tout aussi bon que son bâton. Il ne s'est pas réveillé là, alors la chose n'a pas marché. Il voulait savoir autre chose. Le prophète est entré, maintenant il était désespéré. Bon, qu'est-ce qu'il va faire? Et nous voyons dans la Bible qu'il marchait de long en large, désespéré. Je ne sais pas quoi faire d'autre, Seigneur, me voici. Tu m'as dit de dire cela à cette femme, et ainsi dit le Seigneur. Et c'est exactement comme ça que je le lui ai dit, parce que tu me l'as dit. Maintenant, la voilà dans les ennuis et je ne sais pas quoi faire. Là, j'ai un garçon mort. Que puis-je faire, Seigneur? Aucun doute que le Saint-Esprit a dit, si Dieu est en toi, alors est en toi sur l'enfant. Tout de suite, il s'est arrêté, il a couru et a mis ses mains, son nez sur son nez, ses lèvres sur ses lèvres. Et quand il s'est étendu dessus, le bébé a éternué 7 fois. C'en était terminé d'être désespéré. Le bébé est revenu à la vie parce que c'était une question de vie ou de mort qui a conduit la femme vers le prophète. C'est une question de vie ou de mort qui a conduit le prophète vers le bébé. Et le fait que les deux étaient désespérés à faire entrer Dieu en scène. Avec l'amour de Dieu et l'amour pour son peuple, cela a fait descendre l'amour de Dieu et a mis la foi au front de la bataille, puis le travail était terminé. Affaire classée. Amen. C'est ça, c'est l'énergie du désespoir qui le fait, certainement. Elle n'allait pas partir. L'aveugle Bartimée pensait que Jésus allait passer sans s'arrêter. Il était assis là à la porte, un mendiant aveugle pour des aumônes. Tout à coup, il a entendu un bruit. Jésus passait par là. Il a dit, « Qui passe par là? » Quelqu'un l'a bousculé. Il a dit, « S'il vous plaît, quelqu'un qui est en train de passer. » L'un d'eux, eh bien peut-être une aimable petite femme disciple, lui a dit. Elle a dit, « Monsieur, ne savez-vous pas qui est en train de passer? » Non, j'ai entendu certains d'entre eux dire, « Il y a tout un cimetière rempli de morts ici. Si tu ressuscites les morts, va les ressusciter. Est-ce un blasphémateur ou quelqu'un d'autre? » Non. As-tu déjà entendu parler de ce prophète de Galilée, de ce jeune prophète appelé Jésus de Nazareth? Non. Eh bien, tu sais, dans la Bible, il est dit dans nos rouleaux que le fils de David sera suscité pour s'asseoir dessus. C'est lui. Est-ce bien lui? Est-ce bien lui? Il est en train de passer? L'énergie du désespoir l'a poussé à crier, « Ô Jésus, fils de David, aie pitié de moi! » Ne m'oublie pas, ô doux sauveur. Écoute mon humble cri. Pendant que tu en appelles d'autres, oh, ne m'oublie pas. Oh, Jésus, certains d'entre eux ont dit, tais-toi, tu fais trop de bruit. Mais il était désespéré. S'il passait, il pourrait ne plus jamais avoir une autre occasion. Peut-être que nous non plus, c'est peut-être le dernier soir. L'énergie du désespoir. Il s'était crié, oh, Jésus. Peu importe qui lui disait d'arrêter, il criait malgré tout, d'autant plus fort. Quand ils lui ont dit de se taire, ça l'a fait crier plus fort. Il était désespéré. Personne ne pouvait l'arrêter. Fils de David, aie pitié de moi. Et il criait avec l'énergie du désespoir. Puis le Fils de Dieu, avec les péchés du monde sur ses épaules, alors qu'il se rendait à Jérusalem pour être offert en sacrifice pour le monde, il s'est arrêté net. L'énergie du désespoir, un cri de désespoir, arrêta le Fils de Dieu. Il a dit, « Que veux-tu que je fasse pour toi? » Oh! Il a dit, « Seigneur, que je recouvre la vue. » Il a dit, « Va ton chemin, ta foi te sauve. » Cela avait suffi. L'énergie du désespoir, quand l'énergie du désespoir est de recevoir quelque chose, le moindre petit contact, la foi s'en empare. Voyez, il n'a pas dit, « Là, attends une minute, voyons si je peux voir maintenant. Je n'ai pas vu mes mains depuis plusieurs années. Voyons si je peux les voir, je ne vois encore rien. » Quand Jésus a dit, « Ta foi t'a sauvé », c'était suffisant. C'est tout ce qu'il voulait. L'énergie du désespoir nécessite un élément déclencheur. Et quand celui-ci, si petit soit-il, est reçu, il est cru à l'instant même, parce que la foi saisit quand c'est poussé par l'énergie du désespoir. Voyez, l'amour qui s'y trouve s'y mélange et y conduit. C'est l'énergie du désespoir qui le fait. L'aveugle Bartimée a rapidement saisi la vision. Pierre, il était tout emballé une nuit sur la mer quand c'est devenu une question de vie ou de mort. Il s'est mis à crier. Il y a quelque chose qui ne va pas. Je vois un esprit qui vient et qui marche vers moi. Le bateau était sur le point de couler. Il a dit, c'est toi, Seigneur, ordonne que j'aille vers toi sur l'eau. Il est sorti du bateau et s'est mis à marcher. Puis il a eu peur quand il a commencé. Et il a commencé à s'enfoncer. Et l'énergie du désespoir, bien que c'était une erreur, en essayant de suivre les commandements de Dieu, j'espère que l'Église est saisie. Cet homme faisait ce que Dieu lui avait dit de faire. Maintenant, vous les chrétiens ce soir, vous êtes dans la ligne du devoir, essayant de suivre la conduite du Saint-Esprit. Et un cancer s'est emparé de vous, ou une mort s'empare de vous, un cancer, la tuberculose, quoi que ce soit. Dans la ligne du devoir, vous avez le même droit que Pierre. Seigneur, sauve-moi, sinon je vais périr. Avec l'énergie du désespoir, il a crié, une main s'est étendue, il a relevé. Vous avez la même chose, mais c'était crié, sauve-moi, Seigneur. Il a entendu mon cri désespéré. Des eaux, il m'a retiré, maintenant je suis en sécurité. Voyez, c'est ça, quand vous vous écriez. Peut-être que cette femme, une mère ou peu importe ce qu'il était pour elle, un petit garçon ou un petit-fils ou un neveu, peu importe ce qu'il était, elle a crié avec l'énergie du désespoir. Dieu a entendu. Ensuite, nous voyons, alors qu'il s'enfonçait, Dieu l'a entendu. Dans la ligne du devoir, il a commencé à s'enfoncer, il a échoué. Peu importe si vous échouez, ça n'a rien à y voir. Nous échouons tous, nous sommes un échec pour commencer. Mais nous avons quelqu'un ici qui a une main puissante qui peut nous saisir et nous mettre au-dessus des eaux. Si vous avez fait une erreur, si une femme a fait une erreur, si un homme a fait une erreur, si un garçon ou si une fille a fait une erreur, ne vous enfoncez pas. Et criez-vous avec l'énergie du désespoir, « Seigneur, sauve-moi, sinon je vais périr. » Devenez désespéré à ce sujet. Dieu vous exaucera. Il entend toujours une âme désespérée. C'est ce que j'essaie de vous dire. Notre cher Seigneur Jésus, lui-même, dans le plus grand champ de bataille du monde, Gethsémané, il s'est écrié dans la détresse. Devait-il prendre les péchés du monde ou devait-il simplement rester sur terre avec ses disciples bien-aimés, ce qu'il voulait faire? Mais observez son humilité, alors qu'il s'est humilié, non pas ma volonté, mais que la tienne soit faite. Il s'est humilié à la parole promise du Dieu du ciel. Remarquez, alors il est allé un peu plus loin, et s'il a continué d'avancer, à combien plus forte raison devrions-nous continuer d'avancer? Voyez et remarquez, l'Écriture dit ici, dans Luc, qu'il a prié avec ferveur. Frères, sœurs, Si Jésus devait prier avec ferveur, à combien plus forte raison devons-nous prier avec ferveur? Si Christ, le Dieu du ciel, fait chair, a dû prier avec ferveur, alors combien plus nous, pécheurs sauvés par grâce, devons prier avec ferveur? Si la décision a amené le Fils de Dieu à être désespéré, qu'est-ce qu'elle fera à vous et à moi? Nous devons crier désespérément. Dieu, en ces derniers jours, s'est tellement manifesté à nous par ses grands signes et sa puissance, ça devrait nous rendre désespérés. C'est vrai. Et sa volonté de nous guérir et de nous sauver devrait tous nous amener à être désespérés d'obtenir cette pierre de guérison. C'est vrai. Regardez, si Florence Nightingale, l'arrière-petite-fille de feu Florence Nightingale qui a fondé la Croix-Rouge, vous avez vu sa photo dans un livre, elle pesait environ 30 livres. Le cancer l'avait rongée. À Londres, en Angleterre, ils l'ont amenée d'Afrique à Londres, en Angleterre, et là, sous l'énergie du désespoir, Frère Bosworth lui a répondu, il a dit, nous ne pouvons pas aller en Afrique. Elle a répondu par écrit, a fait écrire l'infirmière et elle a dit, je ne peux pas être déplacée, je ne peux pas le faire. On a montré la photo, vous avez vu la photo. Seulement, nous avons dû mettre une petite pièce par-dessus. Il n'y avait qu'une petite corde autour. J'ai pensé que peut-être quelqu'un, on l'a mise dans le livre pour critiquer parce qu'elle était, son corps était tellement exposé là que nous avons mis une petite chose sur elle ici. Elle avait juste un petit linge, une serviette posée sur ses hanches, mais au-dessus, il n'y avait rien. Et même nous avons pensé mettre un petit bout de papier là et photographier ça pour éviter que les gens qui n'ont pas la position qu'il faut dans leur pensée, afin qu'ils ne me critiquent pas d'avoir publié cette photo dans le journal. Et puis, quand le médecin a dit qu'elle ne pouvait pas être déplacée et qu'elle a su que j'allais visiter l'Angleterre, elle leur a demandé de la mettre sur une civière, de la transporter dans un avion et de l'emmener à Londres, en Angleterre, et d'envoyer un garde à l'avion avant d'aller au palais de Buckingham. Elle a envoyé un garde là-bas pour qu'on vienne prier pour elle. Et elle était tellement mal en point qu'elle ne pouvait même pas me parler. Ils ont dû lever sa main pour la mettre dans la mienne. Vous savez comment est Londres, certains de vous, les soldats y est allé, c'est toujours si brumeux. Je me suis agenouillé là, près d'une fenêtre, et elle, ses larmes coulaient. Elle voulait, je ne sais même pas comment elle pouvait avoir assez d'humidité pour que des larmes coulent. Ce n'était que des os, avec de la peau par-dessus, et ses jambes ici, au niveau des hanches, n'étaient pas plus grosses que, elle me semblait avoir une largeur d'environ 2 pouces ou 3 pouces. Ses veines s'étaient affaissées. Comment elle faisait pour vivre, je ne le sais pas. Vous avez vu sa photo plus tard. Je me suis agenouillé près du lit. Or, elle était désespérée. Que je puisse venir ou pas, ils allaient l'emmener de toute façon. Je suis arrivé là-bas. Mon cœur saignait au-dedans de moi à cause de la foi de cette pauvre petite créature qui se mourait. Et j'ai prié de tout mon cœur. Et pendant que je me mettais à prier, une petite colombe est arrivée. Elle s'est posée sur la fenêtre et s'est mise à marcher de long en large en roucoulant. Je pensais que c'était un animal de compagnie. Je n'étais en Angleterre que depuis environ 1 heure. J'arrivais de l'aéroport là-bas. Et je pensais que c'était un animal de compagnie. Et quand je me suis levé, que j'ai dit « Amen », elle s'est envolée. J'ai demandé aux frères s'ils avaient entendu cette colombe. Ils étaient en train d'en parler. Et quand je me suis mis à dire « Avez-vous vu ce que signifie cette colombe ?» C'est venu « Ainsi dit le Seigneur, tu vivras et tu ne mourras pas. » Et elle est en vie aujourd'hui. Pourquoi? C'était une question de vie ou de mort. L'énergie du désespoir a poussé cette femme à prendre position, qu'elle meure ou non. L'énergie du désespoir a fait en sorte qu'elle arrive là-bas en même temps que moi. Et un signe de Dieu, il a envoyé une colombe pour donner l'ainsi dit le Seigneur. Désespérée. Quand la sœur, la brave A.T. Waldrop de Phoenix, Arizona, marchait sur le trottoir à ma première réunion, l'interne et son mari l'amenaient. Un cancer du cœur. Elle avait pris position en essayant d'aller à la réunion. Elle était si mal en point qu'elle ne pouvait plus respirer. Le sang refluait dans son cœur, là où le cancer avait rongé son cœur. Maintenant, un cancer du cœur. Ça fait environ 18, 19 ans, peut-être 20. 1947, voilà qu'est-ce que c'était. Voilà quand c'était. Donc, elle a dit à son mari et à l'interne, « Si je meurs dans cette ligne, « amenez-moi là-haut. » L'énergie du désespoir. Elle a perdu conscience. Je ne pense pas qu'elle était morte. Elle a dit qu'elle l'était. Bon, peut-être qu'elle l'était. Il se peut qu'elle entende cette bande. Vous voyez, bon, elle a dit qu'elle était morte. Je ne sais pas. Ils m'ont dit, il y a une femme morte qui vient dans la ligne. Et quand la femme est passée, elle était sans vie. Et quand ils l'ont amenée là-haut, la parole du Seigneur est venue. Alors, je suis allé lui imposer les mains. Et elle s'est levée et est rentrée chez elle en marchant. Ça fait environ, je dirais, certainement 18 ans. Et elle est tout aussi en santé et vigoureuse. Elle sera à Tucson pour me rencontrer quand je serai là-bas. L'énergie du désespoir. Même si je meurs en route, malgré tout, amenez-moi là-bas. Il en a guéri d'autres, il me guérira. Bien disposé. Que notre cœur soit rempli d'amour en ce jour-ci et qu'il soit honnête et désespéré. Après un moment, il sera peut-être trop tard. Une fois, Jairus avait une petite fille qui se mourait. C'était un croyant frontalier. Il croyait en Jésus, mais il avait peur de le confesser parce qu'il l'aurait expulsé de la synagogue. Mais le médecin est venu un matin et a dit qu'elle est en train de mourir. L'énergie du désespoir s'est installée. Il ne pouvait pas se permettre, étant donné sa position, d'être surpris avec Jésus de Nazareth parce qu'il perdrait sa position de sacrificateur. Mais je vous le dis, quand l'urgence est arrivée, il est devenu désespéré. Je peux le voir chercher sa petite redingote et son chapeau de prédicateur et il les a enfilés. Le voici qui traverse la foule en se pressant, là où une femme qui venait de toucher son vêtement et tout, et ils poussaient tous des cris. Mais il est entré et a dit, « Maître, ma petite fille est étendue là à l'article de la mort. Maître, maître, ma petite fille est étendue là à l'article de la mort. Si tu viens simplement lui imposer les mains, elle vivra. Oh là là, l'énergie du désespoir vous fait dire des choses parfois, vous fait faire des choses, ça vous met en action. Sa fille a été sauvée par l'énergie du désespoir. » Soyons désespérés comme cette petite femme à la perte de sang. La Bible dit qu'elle avait dépensé tout son argent chez les médecins et pourtant ils ne pouvaient pas l'aider. Cela avait commencé sa ménopause à couler une perte de sang et ça ne s'arrêtait pas. Ils avaient peut-être vendu la ferme, les mulets, les chevaux et quoi encore et rien ne pouvait l'aider. Et leur sacrificateur lui avait dit de ne jamais s'approcher de ce genre de personne. Mais un matin, elle a baissé les yeux, elle habitait sur la rive, là-haut, là où se trouvait sa ferme, et elle a vu un grand groupe de gens se rassembler là autour d'un homme, et ils disaient « Qu'est-ce? » On a dit « C'est Jésus de Nazareth, l'énergie du désespoir s'est installée. » Elle a dit « Je suis plutôt insignifiante, et mais si je peux seulement toucher le bord de son vêtement, je serai guéri. » Et elle a ignoré tous les critiques et tout le reste, mais finalement, elle y est arrivée. Elle a touché son vêtement avec l'énergie du désespoir. Et quand il l'a fait, il s'est retourné et a dit « Qui m'a touché? » Et ils l'ont tous nié. Mais il a regardé tout autour, il était doté d'un grand don de Dieu. Il était Dieu. Et il a trouvé la petite femme et lui a dit que sa perte de sang s'était arrêtée. L'énergie du désespoir l'avait poussé à faire ça. C'est l'énergie du désespoir qui a poussé la reine du Sud. Elle avait entendu dire que le don de Dieu agissait à travers Salomon. L'énergie du désespoir l'a poussé à cela. D'une manière désespérée. Ce sont des êtres humains comme vous et moi. Ils n'étaient pas du tout différents de vous et moi. Ils avaient cinq sens. Ils mangeaient, buvaient et ainsi de suite, comme nous, vivaient et mouraient. C'étaient des êtres humains. Cela l'a tellement désespéré qu'elle a pris une partie de son royaume. Cela l'a poussé à un point tel qu'elle ne pensait plus aux Ismaélites, qui la dévaliseraient dans le désert, aux 90 jours à dos de chameau à travers le désert du Sahara. L'énergie du désespoir. Elle y allait de toute façon. Et quand elle est arrivée là-bas, il n'y avait rien que Salomon ne sut et il lui a dit les choses qu'elle voulait savoir. L'énergie du désespoir, Jésus a dit, elle ressuscitera au jour du jugement avec cette génération et la condamnera, parce qu'un plus grand que Salomon était ici. L'énergie du désespoir. En terminant, je pourrais dire ceci. Il n'y a pas longtemps, au Mexique, j'ai vu quelque chose de désespéré. Je venais juste d'arriver sur l'estrade, là-bas dans un grand stade, et les gens étaient là depuis 9 heures du matin. Il était presque 10 heures du soir. Un vieil homme aveugle, la nuit précédente, complètement aveugle depuis une trentaine d'années, avait recouvré la vue. Il faisait le tour de la ville ce jour-là en témoignant. Un vieux tas de vêtements qui s'étendait sur peut-être 30 ou 40 mètres, haut comme ça, de vieux châles. Il y avait peut-être 40, 50 000 personnes là-bas, et de vieux chapeaux et des châles à qui ils appartenaient. Je pense qu'ils allaient devoir décider ça entre eux. Il pleuvait à verse. Ils m'ont fait descendre à l'aide d'un câble par-dessus un mur. Je suis arrivé sur l'estrade. Le ministre, l'homme qui est assis ici, on l'a amené. Lui et sa fille sont arrivés du Michigan il y a quelques minutes. Il parlait de Frère Arment. Nous nous souvenons de lui ici. Il est dans les rues de la gloire ce soir. Frère Arment était là. Il a levé son par-dessus. Il restait là sous la pluie. Il l'a donné à Frère Jack Moore pour qu'il le porte parce que Jack grelottait. L'homme du Sud était sur le point de geler sous cette pluie froide du Mexique. Il était là debout. Et Billy Paul est venu me voir, mon fils, et a dit, « Papa, tu vas devoir faire quelque chose. Il y a une petite femme mexicaine là avec un bébé qui est mort ce matin. Je n'ai pas assez d'huissiers pour la maintenir à l'extérieur de la ligne. Si le fait d'imposer la main sur cet aveugle lui a fait recouvrir la vue, l'imposition des mains sur son bébé mort lui redonnera la vie. Elle était catholique. Et elle, il ne pouvait pas la retenir. » Les frères Espinoza et ceux qui lui avaient dit que nous n'avons plus de carte de prière, tu devras attendre un autre soir. Elle a dit, mon bébé est mort. Il est mort depuis ce matin. Il me faut entrer à l'intérieur. Et elle venait, carte de prière ou pas. Et ils ont aligné environ 300 huissiers là. Et elle leur passait directement entre les jambes et leur sautait par-dessus le dos. Ils couraient avec ce bébé mort et s'est retrouvé parmi eux. Pour elle, ça ne changeait rien. Elle essayait d'arriver là-bas. Elle était désespérée. Dieu avait parlé à son cœur que le Dieu qui pouvait donner la vue pouvait donner la vie. Oh là là, elle était désespérée, quelque chose brûlait en elle. Oh vous, les malades, si vous laissiez cela brûler en vous quelques minutes, et regardez ce qui se passe, ce genre d'énergie du désespoir. Le Dieu qui a pu guérir ce petit garçon l'autre soir, qui a pu guérir cette dame atteinte du cancer, guérir cet homme et faire ceci, Mademoiselle Florence Nightingale, oh les dizaines de milliers, celui qui, c'est une preuve incontestable, ressusciter les morts, guérir les malades et tout le reste, s'il est Dieu, il peut le faire. Il était Dieu hier, il est Dieu aujourd'hui. Soyez désespérés, alors vous obtiendrez quelque chose. Alors, avec l'énergie du désespoir, elle a continué à foncer. J'ai dit à Frère Jack Moore, j'ai dit, elle ne me connaît pas. Elle ne m'a jamais vu. Elle ne sait pas qui est ici sur l'estrade. Cette petite femme catholique-là, elle ne parlait pas un mot d'anglais. Alors, comment saurait-elle qui sait? J'ai dit, vas-y, prie pour le bébé, cela la satisfera. Et elle continuera son chemin. J'ai dit, ça ne causera pas. C'était un grondement continu. Elle sautait, tout le monde criait. Elle leur passait par-dessus les épaules et retombait au milieu d'eux. Elle gagnait quelques pieds et là, on essayait de la repousser. Et voilà qu'elle leur passait entre les jambes avec ce bébé, dérangeant les huissiers et tout le reste. Ça ne changeait rien. Elle allait y parvenir. Elle devait y parvenir. Peu importe ce qu'il y avait, elle allait y parvenir. On a demandé au ministre, n'est-ce pas là une histoire semblable à celle de la femme tsunamite? Seulement ça, ce n'était pas il y a 3500 ans. C'était il y a environ 3 ou 4 ans, voyez. Il peut en être de même ce soir. Quand la même énergie du désespoir survient, cela envoie l'amour et la foi là-bas au front de la bataille pour réclamer ce que vous voulez, parce que c'est une promesse de Dieu que vous pouvez l'avoir. C'est tout à fait vrai. Je me suis retourné. Moi, le ministre ou l'évangéliste sur place, je me suis retourné, je me suis senti désolé pour cette femme. Mais il n'y avait pas cette énergie du désespoir. Voyez, je me suis tourné, j'ai pensé, eh bien, Frère Jack va prier pour elle, et ça réglera la question. Je me suis retourné. J'ai dit, comme je le disais, là, la foi, et j'ai regardé là-bas, il y avait une vision. J'ai vu un petit bébé assis là, un petit bébé mexicain au visage foncé, sans dents, il me regardait en riant, assis là. J'ai dit, attendez un instant. L'énergie du désespoir a poussé le Saint-Esprit à changer mon sujet, à changer ma vue et à me montrer son bébé qui était là. Cela a renvoyé l'esprit. J'ai dit, attendez un instant, amenez-moi le bébé. La voilà qui arrive avec une petite couverture mouillée, trempée, bleue et blanche, une petite forme morte, à peu près longue comme ça. Elle est tombée, un crucifix à la main ou un chapelet pour réciter, c'est « Je vous salue Marie ». Je lui ai dit, « Mets ça de côté, ce n'est pas nécessaire ». Et elle s'est approchée de l'endroit où j'étais. Et elle a crié et hurlé, « Padre », ce qui veut dire « Père ». J'ai dit, « Ne dis pas ça, crois-tu ?» Et il le lui a dit en espagnol, « Est-ce qu'elle croit ?» Ce qu'elle croyait. Oui, elle croyait, il lui a demandé comment elle croirait. Elle a dit, « Si Dieu a pu redonner la vue à ce vieil homme, il peut redonner la vie à mon bébé. » Amen. L'énergie du désespoir l'avait poussé à cela. Rien de ma part. J'ai seulement eu la vision. J'ai dit, « Seigneur Jésus, j'ai eu une vision d'un petit bébé. Il se pourrait que ce soit celui-ci. » À peu près à ce moment-là, il a donné des coups de pied. Il a fait « Wa, wa, wa ». J'ai dit, « Accompagnez-la chez le médecin. » Obtenez une déclaration écrite du médecin que ce bébé était mort. Et le médecin a rédigé la déclaration. La respiration de ce bébé, son cœur s'est arrêté ce matin dans mon bureau à 9h. Il est mort d'une pneumonie double. Le bébé est en vie et vit au Mexique ce soir, pour autant que je sache. Pourquoi? L'énergie du désespoir s'est installée dans le cœur d'une petite maman qui pleurait pour son enfant qui avait vu Dieu faire guérir les yeux d'un aveugle et savait qu'il pouvait ressusciter le bébé mort. l'énergie du désespoir. Quand tu me chercheras de tout ton cœur, alors je t'exaucerai. Voyez, le royaume, la loi et les prophètes ont existé jusqu'à Jean. Depuis lors, le royaume des cieux a été prêché et l'homme use de violence pour y entrer. Ne restez pas là à dire, « Seigneur, prends-moi par le col, pousse-moi à l'intérieur. » Vous usez de violence pour y entrer. Vous devenez désespéré entre la vie et la mort. Je souhaiterais avoir le temps pour une autre histoire à laquelle je pensais à l'instant, d'une femme, une jeune fille qui a pris la mauvaise voie et qui avait tourné la page et tout, au point que je lui ai dit, « Sœur, elle s'est levée et a dit, je crois que tout ira bien. » J'ai dit, « Non, non, reste là. » Et puis, tout à coup, elle s'est mise à prier un peu et immédiatement, elle priait de plus en plus fort. Au bout d'un moment, elle est devenue désespérée. Elle a dit, « Oh Dieu, sauve-moi! » Les alcooliques anonymes n'avaient pas pu la guérir. Rien d'autre ne le pouvait. Mais ses grands yeux noirs me regardaient et les larmes coulaient sur ses joues. Elle a dit, « Il s'est passé quelque chose. » « Oh oui, oui monsieur, il s'est passé quelque chose. » Elle était désespérée. Soyons désespérés à ce sujet, entre la mort et la vie. Si vous ne pouvez pas devenir désespéré, ne venez pas ici. Si vous êtes désespéré, venez ici et observez. Vous l'obtiendrez dès que vous arriverez ici. Prions. Avec l'énergie du désespoir, attendez-vous au royaume de Dieu. Il viendra sur vous. Notre Père Céleste, je te prie au nom de Jésus d'être miséricordieux envers nous, Seigneur. Et crée en nous l'énergie du désespoir. Ô Seigneur Dieu, aie pitié de nous. Je te prie que les gens te cherchent ce soir avec des cœurs désespérés. Nous savons que tu es ici, Seigneur. Tu es le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Et maintenant, puissent ces gens qui ont le signe, qu'ils sont passés de la mort à la vie, qui sont passés de l'ancienne vie mondaine à une nouvelle. Ils ont. Le sang est appliqué et Dieu leur donne un signe. Puissent-ils prendre ce signe dans leurs mains, que ceux qui sont malades disent, « Je suis un produit acquis par Dieu. Je suis en Christ et en lui, il n'y a pas de maladie. Je suis en Christ et en lui, il n'y a pas de péché. Je suis en Christ et en lui, il n'y a pas d'incrédulité. Je renie tout ce que le diable m'a dit. Je prends mon signe que il a été blessé pour mes transgressions. Il a été brisé pour mon iniquité. » Le châtiment de ma paix était sur lui et c'est par cette meurtrissure que j'ai été guéri. Je détiens maintenant le signe que Dieu m'a reconnu, ce dessein, cette personne rachetée par le sang du Seigneur Jésus. Et je détiens le signe de sa mort entre mes mains, parce qu'il est ressuscité et que je suis à lui et qu'il est à moi. J'avance avec une foi déterminée qu'à partir de ce soir, je crois Dieu et je vais être guéri quand j'arriverai là-bas et aurai rempli les conditions. En effet, les dernières paroles qui sont sorties de ses lèvres étaient celles-ci. « S'ils imposent les mains aux malades, ils seront guéris. » Accorde-le, Seigneur, que l'énergie du désespoir s'installe, car je le demande au nom de Jésus. Amen. Je peux, je veux, je crois vraiment. Je peux, je veux, je crois vraiment. Je peux, je veux, je crois vraiment que Jésus me guérit maintenant. Oh, je peux, je veux, je crois vraiment. Je peux, je veux, je crois vraiment. Pensez un peu, je suis déterminé. Je peux, je veux, je crois vraiment que Jésus me guérit maintenant. Vous le croyez? Je suis déterminé. Je suis déterminé par la grâce de Dieu à ne jamais m'arrêter tant que ce quelque chose ne m'aura pas frappé. Je vais monter là-haut pour qu'on m'impose les mains. Eh bien, Dieu ne nous a jamais déçus. Et je crois que le grand médecin est proche maintenant. Je crois le Dieu qui a écrit la parole. Je crois le Dieu qui s'est offert en sacrifice. Je crois au signe du Dieu qui nous purifie du péché ce soir. Le signe, sa propre vie est ici avec nous. Je serai avec vous, même jusqu'à la fin du monde. Encore un peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez, car je serai avec vous, et même en vous, jusqu'à la fin du monde. Vous le croyez? Je lui fais confiance. Je crois qu'il le fera, pas vous? Maintenant, dès que je commence cela, je vois apparaître des visions. Amen. De grandes visions du Seigneur qui parlent de grandes choses. Amen. Si je commence ça, nous serons ici toute la nuit. Allez-vous le croire? Croyez-vous? Amen. Je le crois de tout mon cœur. La petite dame assise là, qui vient de chez Frère Palmer, elle m'est inconnue. Elle vient de la Géorgie et elle souffre d'un problème gynécologique. Si elle croit que Dieu va la rétablir, il le fera. Je n'ai jamais vu cette femme de ma vie, mais c'est ce qui ne va pas avec elle. Cette petite femme, je ne sais pas si elle a déjà entendu le message auparavant ou pas, mais pendant que je prêchais ici, je l'ai vue. Croyez-le simplement et voyez si c'est vrai. Amen. Si seulement vous croyiez, c'est bon. La dame qui est assise juste ici au fond avec un mal de dos, elle souffre vraiment beaucoup. Elle s'appelle Madame Wisdom. Si vous croyez de tout votre cœur, Jésus-Christ vous rétablira. Je n'ai jamais vu cette femme de ma vie, mais elle est assise là, souffrante. Elle porte une robe jaune, pas vrai? Très bien. Sommes-nous des inconnus l'un pour l'autre? Oui, très bien, monsieur. Rentrez chez vous, portez-vous bien, Jésus-Christ vous guérit. Amen. Une autre femme qui vient de le saisir, un mal de dos assise ici. Elle a un problème de dos, elle a un garçon, il a des maux de tête. Ah oui, c'est ça. Elle s'appelle Madame Parker. Croyez de tout votre cœur et Jésus-Christ vous guérira tous les deux. Amen. Vous m'êtes inconnu. C'est tout à fait vrai. Amen. Croyez de tout votre cœur. Il y a ici un homme âgé qui vient du Michigan. Il a des problèmes d'oreilles. Ou il pense que des voix, un problème spirituel. Est-ce juste? Vous croyez que vous ne savez pas si c'est Dieu ou ce qui vous parle? Vous entendez des bruits dans vos oreilles? Je vous suis totalement inconnu. Si c'est vrai, levez la main et c'est ce qui se passe. Ça ne vous dérangera plus jamais. Jésus-Christ vous guérit. Croyez-vous le grand médecin? Je vous parlerai bien, mais vous venez de la Norvège et vous ne comprenez pas la langue norvégienne. Très bien. Dites-lui de rentrer chez lui en croyant, ça, si vous pouvez me traduire. Dites-lui que son problème à la tête va le quitter. Bon, vous savez que je ne le connais pas. Il est venu ici de Norvège pour qu'on prie pour lui. Retournez là-bas, un homme bien portant. Amen. Oh, Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Qu'est-ce que c'est? C'est cette colonne de feu. C'est le Saint-Esprit, c'est ce signe que Jésus-Christ vit. Et quand les gens, il y a longtemps, l'ont vu faire ces choses, ils discernaient leurs pensées parce qu'il est la parole. Et la parole est plus tranchante qu'une épée à deux tranchants. Et elle discerne les pensées et les intentions de leur cœur. Amen. J'ai vu l'eau qui brillait, ce jeune garçon qui venait, il a entendu et a lu un livre là-bas, écrit en norvégien. Il en est venu à comprendre, quelqu'un lui a parlé, il a des problèmes, mais s'il croit de tout son cœur, le Seigneur Jésus va le rétablir. Il a parcouru un long chemin, un pauvre enfant en plus, qui essaie de s'efforcer d'entrer. Nous allons lui imposer la main dans un instant. Croyez-vous? Amen. Comme c'est merveilleux. Oh là là, le grand médecin est tout prêt. Sœur, où est Sœur Ungren et cette autre sœur au piano? Je veux que vous veniez tout de suite, si vous le voulez bien, et nous jouons un cantique. Ce grand médecin est tout prêt, le compatissant Jésus. Je veux que les gens qui sont dans cette allée ici, qui veulent que l'on prie pour eux, de bien vouloir descendre de ce côté-ci, une seule allée à la fois. Frère Neville, fais ça s'il te plaît. Où est Frère Capps ou l'un de ses directeurs de cantique? Qu'en est-il si Frère Ungren ou Frère Capps ou quelqu'un vient ici chanter, diriger ce cantique pour nous, si vous le voulez bien? Est-ce que Frère, où se trouve l'un de ses frères? Très bien, monsieur, c'est bon. Très bien, tout le monde en prière. Souvenez-vous, l'énergie du désespoir. Vous voyez ce que l'énergie du désespoir peut faire? L'énergie du désespoir vous conduira outre-mer. L'énergie du désespoir vous fera venir d'un autre état. L'énergie du désespoir vous conduira n'importe où. Un précieux vieux père et sa fille, désespérés, ils ont essayé d'entrer, de venir, et tout le reste, ils sont quand même assis. Il y a quelques instants, le Saint-Esprit a révélé la chose ici, dans la réunion, juste avant que j'arrive ici. Oh! Le chant le plus doux jamais chanté. Jésus. Jésus béni. Le grand médecin est tout prêt. Le compatissant. Seigneur Jésus, accorde-le. Exauce la prière de ton serviteur, Seigneur. Je te prie de rencontrer chacun d'eux et de les rétablir pour ta gloire au nom de Jésus. La voix de Jésus. Le plus beau chant des séraphins. le plus beau des noms sur nos lèvres. Oh, le chant le plus doux jamais chanté. Que ceux qui sont désespérés en ce moment, qui savent vraiment qu'ils vont être guéris, pensez un peu. Pour autant que je sache, 100% ont été, depuis dimanche soir passé, guéris cette semaine. Le compatissant. Regardez bien, il vient. Voyez, il vous a déjà guéri. Il apporte sa parole, il la confirme. Il montre sa présence. Personne ne peut faire ces choses à part Dieu. Vous le savez, c'est le signe du Messie. Et vous savez que je ne suis pas le Messie, alors c'est lui. Maintenant, ici, il vous a tout prouvé. Eh bien, cela devrait créer l'énergie du désespoir en vous. Ça devrait électriser cet endroit et toucher. Non, c'est comme une allumette avec un baril de poudre. Certainement. Et ça devrait faire exploser la foi et l'amour et l'énergie du désespoir à pousser ces gens à entrer directement dans le royaume de Dieu. À croire de tout leur cœur. Croyez-vous maintenant, chacun de vous? Très bien. Bon, Billy, prends le... Tony, regarde ici un instant. Je ne t'ai pas vu depuis longtemps, mais tu es malade. Tu souffres de quelque chose comme la dysenterie. C'est vrai, ça va s'arrêter. Ça va te quitter. J'ai vu cette chose qui le suivait alors qu'il s'apprêtait à passer par là. Il n'y a rien qui puisse être caché à Dieu en ce moment. Je n'ai pas vu Tony depuis des mois, je pense, mais je vois qu'il a ça. Il l'avait, il ne l'a plus maintenant. Courbons la tête. Qu'aucun œil ne reste ouvert, qu'aucun œil ne regarde, que tout le monde soit en prière. Et Billy Paul ou Frère Neville, l'un d'eux, appellera les rangées suivantes le moment venu. Maintenant, tout le monde en prière. Nous allons essayer maintenant. L'allée centrale viendra de votre côté gauche quand on vous appellera. De même, l'allée de gauche ici viendra de votre côté gauche quand on vous appellera. Frère Neville va vous appeler. Maintenant, je me demande s'il y a des frères qui aimeraient venir ici pour imposer les mains sur ces gens avec moi alors qu'ils passeront. Qui que vous soyez, mes frères dans le ministère, vous êtes certainement bienvenus pour venir vous tenir à mes côtés si vous voulez le faire. Ce n'est pas une chose isolée. Vous avez le droit de prier pour les malades autant que moi. Je sais que le Saint-Esprit est ici. Tous ceux qui ne veulent pas croire ça, il y a quelque chose qui ne va pas avec eux. Très bien, à présent, croyons de tout notre cœur que Dieu accordera les choses que nous demandons. Ayez la foi maintenant, ne doutez pas. Et que tout le monde prie les uns pour les autres. Qu'est-ce que la Bible a dit? De confesser nos fautes les uns aux autres. De prier les uns pour... Et vous qui venez dans la ligne, dès que ses mains vous touchent, repartez d'ici heureux et en louant Dieu de ce que vous êtes guéri. Très bien, que tout le monde soit en prière maintenant, pendant que Frère Cap dirige le cantique. Seigneur Jésus, aide-nous maintenant, je prie dans le nom de Jésus-Christ, que le Saint-Esprit touche chaque personne et puisse être guéri, alors que nous suivons tes commandements par l'imposition des mains aux malades. Tu as dit, ils seront guéris. Nous le croyons, Père, au nom de Jésus. Amen. Très bien. Que tout le monde soit en prière maintenant alors que nous commençons à prier. Pour commencer, il y a un petit garçon malade dans un fauteuil roulant. J'impose la main à l'enfant au nom de Jésus-Christ afin qu'il soit guéri. Oui, monsieur. Au nom de Jésus-Christ, le chant le plus doux jamais chanté. Jésus, Jésus béni. Combien parmi vous croient que Dieu a, vous êtes sûr dans votre cœur, avec une assurance scellée, que Dieu a exaucé votre requête parce que vous avez obéi à sa parole? C'est vrai. C'est terminé. C'est fait. Croyez-le de tout votre cœur que c'est une œuvre terminée. Maintenant, surveillez bien cette semaine et quand vous reviendrez, regardez ce qui s'est passé. Je suppose que la prochaine fois que je vais revenir, le Seigneur voulant, je vais faire passer la ligne de prière dans l'une de ces pièces, dans cette petite pièce où je dois les emmener. Vous voyez, je crois que c'est en train de se dévoiler maintenant. Voyez-vous, là, je veux en venir là où je pourrais amener les gens un à la fois, traiter avec eux individuellement jusqu'à ce que je le recherche et le découvre. Et ensuite continuer comme ça, que je puisse rester avec eux à ce moment-là. Que Dieu vous bénisse tous. Nous sommes si heureux que vous soyez ici. Êtes-vous persistant maintenant? Êtes-vous désespéré? L'énergie du désespoir que vous aviez pour votre guérison? Est-ce que tout cela a cessé maintenant dans un amour, la foi et la confiance que Dieu fera ce qu'il a promis de faire? Dieu va le faire. Et ces petits-enfants, il y en a deux ou trois ici ce soir dans des fauteuils roulants. Nous allons croire pour eux. Ce sont des enfants qu'eux aussi vont être guéris. Ils vont se rétablir. Ne le croyez-vous pas? Amen. Ils seront guéris. Il le faut. Dieu l'a dit. Et nous sommes désespérés. Nous allons croire maintenant que ce sera fait. Or, nos réunions impliquent simplement une chose après l'autre. Maintenant, nous allons terminer la réunion pour ceux qui doivent partir. D'après ce que je peux voir, il est environ 9h52. Et si vous devez partir, nous sommes heureux que vous soyez ici. Et nous voulons que vous reveniez nous visiter. Les autres, après que nous serons levés, vous pourrez vous rasseoir. Et ceux qui s'en vont, quittez aussi silencieusement que possible. Et puis, nous aurons le service de communion tout de suite après. Vous êtes invités à rester si vous le pouvez. Si vous ne pouvez pas, que Dieu vous bénisse. Priez pour moi. Je vais prier pour vous. Et souvenez-vous, gardez le signe appliqué et emparez-vous désespérément du royaume de Dieu. Amen. Maintenant, nous allons chanter notre cantique de clôture, si possible, et revêt-toi du nom de Jésus, que nous nous levons. Toi, du nom de Jésus, ô toi, enfant de tristesse. Il va te procurer la... Vous pouvez les amener maintenant. De partout où tu vas. Précieux nom, précieux nom. Nom si doux, nom si doux. Espoir de la terre, joie du ciel. Précieux nom. Nom si doux, si doux. Espoir de la terre, joie du ciel. Serrez-vous la main les uns les autres, dites que le Seigneur vous bénisse, mon frère pèlerin, ma sœur. Profondément, sincèrement, respectueusement, et amis chrétiens dans les liens de la communion fraternelle, serrez-vous la main, frères et sœurs, que Dieu vous bénisse tous, ensemble. Merveilleux. Je l'aime. Je l'aime. Parce qu'il m'a aimé le premier. Et a acquis mon salut sur le bois du calvaire. Jusqu'à ce que nous nous revoyions. Jusqu'à ce que nous nous revoyions, réunis au pied de Jésus. Revoyons. Jusqu'à ce que nous nous revoyions. Dieu soit avec vous jusqu'à ce jour. Jusqu'à ce que nous nous revoyions. Réunis au pied de Jésus. Revoyons. Jusqu'à ce que nous nous revoyions. Dieu soit avec vous jusqu'à ce jour. Cette douceur et cette communion du grand signe de Dieu, le Saint-Esprit, puisse-t-il demeurer richement avec vous tous jusqu'à ce que nous nous revoyions. Que la grâce de Dieu vous accompagne, frappant les voies de la mort devant vous, éclairant votre sentier, afin que vous puissiez toujours voir Jésus devant vous et que vous ne soyez pas ébranlés. Père Céleste, nous te remettons cette réunion et la réunion de ce matin, ces réunions et ce qui a été fait, ainsi que toute gloire, te rendant grâce et louange pour avoir sauvé les gens et d'avoir guéri les gens, et de nous avoir accordé ta grande grâce sur laquelle nous comptons tous. Sauve-nous Combien nous te remercions pour cela. Sois avec nous maintenant jusqu'à ce que nous nous revoyions. Retrouve-nous dans la communion. Sois au volant de ceux qui rentrent chez eux, Seigneur. Guide-les tout au long de ces vacances, entourés d'insouciance, afin qu'aucun mal ni danger ne leur arrive. C'est au nom de Jésus-Christ que nous le demandons. Amen. Très bien. Revêt-toi du nom de Jésus de nouveau. Revêt-toi du nom. La réunion est terminée maintenant. Du nom. Jésus, comme d'un bouclier puissant. Quand les tentations surviennent, que faites-vous alors? Murmure son nom en priant. Précieux nom. Précieux nom. Nom si doux. Oh, si doux. Espoir de la terre, joie du ciel. Précieux nom. Précieux nom. Nom si doux. Si doux. Espoir de la terre, joie du ciel. Nous nous courberons devant lui, nous prosternant à ses pieds. Pour le couronner, roi des rois. Le voyage terminé. Précieux nom. Nom si doux. Espoir de la terre, joie du ciel. Précieux nom. Nom si doux. Si doux. Espoir de la terre, joie du ciel. Maintenant, juste avant de vous asseoir, pendant que l'Assemblée se tranquillise pour le service de communion, si je ne me trompe pas, n'est-ce pas Frère Blair, le ministre que j'ai rencontré en Arkansas il n'y a pas longtemps? Je pensais que c'était ça. Je n'étais pas sûr. Vous étiez ici pour la consécration d'un enfant, un petit, ce matin. Je pensais, ne vous ai-je pas rencontré il n'y a pas longtemps, ici à Hot Springs, Arkansas? Avec vous, quelque chose était sur le point d'arriver et le Saint-Esprit l'a annoncé. Était-ce juste? C'est bon. J'étais en train de penser à ce moment-là. Je me suis dit, c'est ce frère-là. Je suis si heureux que vous soyez ici, Frère Blair. À présent, je vais demander à Frère Blair s'il veut bien prier Dieu de nous purifier maintenant pour la communion qui est sur le point d'avoir lieu. Voulez-vous, Frère Blair? Oui. Oui, Seigneur. Accorde-le, Seigneur. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Oui. Oui. Amen. Vous pouvez vous asseoir maintenant, tout le monde. Et maintenant, à l'orgue, ça, si vous jouez simplement, il y a une source remplie du sang. Vous pouvez commencer emmenez-les là-bas, tout ce qui est nécessaire. Très bien. La lecture, maintenant, si nous voulons juste rester tranquille juste un instant. Oui, ça. Très bien, ça. Vous n'avez qu'à regarder ici jusqu'à ce que vous le trouviez. Ce sera très bien, quoi qu'il en soit. C'est celui-là? Très bien, ça. Très bien. Maintenant, Frère Neville va lire l'ordre de la communion. Et puis les huissiers vont venir, s'il y a des étrangers ici, à chaque siège, et nous amener une allée après l'autre au fur et à mesure que nous venons, et rangée par rangée pour la communion. Maintenant, puissiez-vous méditer là? Souvenez-vous, Israël l'a mangé alors que c'était une question de vie ou de mort. Et pendant le voyage, pas un seul d'entre eux n'était faible, à la fin des 40 ans. C'est aussi la guérison divine. Que le Seigneur te bénisse, Frère Neville. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et dit, « Prenez et mangez. Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve lui-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Que le Seigneur bénisse cette lecture, la parole. Je tiens du pain cachère, ridé et rompu, qui représente le corps de Jésus-Christ. Par ce voile déchiré, nous avons accès au Saint des Saints. Notre Père Céleste, ce pain a été préparé pour représenter ce corps rompu et déchiré. Puisse chacun de nous, alors que nous le recevrons, que ce soit comme si nous avions littéralement accompli cet acte. Et puissions-nous avoir le pardon de nos péchés et l'accès au Saint des Saints pour vivre dans ta présence dans notre vie à venir. Et tous les jours que nous vivrons ici sur terre et être avec toi dans l'éternité pour toujours. Accorde-le, Père, bénis ce pain pour ce but précis. Au nom de Jésus, amen. La Bible dit, après avoir pris et rompu le pain, de la même manière, il a pris la coupe et après avoir soupé, il dit, « Ceci est la coupe de la nouvelle alliance en mon sang qui est versée pour vous. » Puisse le Seigneur accorder ses bénédictions sur ceci alors que nous prions. Seigneur Jésus, je tiens ici le sang de la vigne, le jus du raisin. Et Père, c'est pour représenter ce précieux sang qui nous purifie. D'où est sorti le signe? Je te remercie pour cela, Père, et pour ce symbole. Tu as dit, celui qui mange et qui boit ceci a la vie éternelle. A la vie éternelle et je le ressusciterai à la fin des temps. Nous te remercions pour cette promesse. Et Père, nous te prions de purifier nos cœurs ensemble afin que nous soyons dignes par notre foi. Sachant qu'en nous-mêmes, nous ne sommes pas dignes, mais notre foi ne faillira pas car nous acceptons parfaitement le sang de Jésus-Christ. Accorde-le, Père, et sanctifie le vin pour le but auquel il est destiné, que quiconque boit de ce vin ce soir et prend de ce pain ait de la force pour le voyage qui l'attend. Accorde-le, Seigneur, puisse-t-il être en bonne santé, fort et rempli de ton esprit, jusqu'à ce que Jésus vienne. Amen. Je crois que la communion est l'une des adorations les plus solennelles, les plus sacrées, les plus douces qui soient au cours d'une réunion dans l'Église. Deux choses nous ont été laissées, trois choses à faire. Ce sont des ordres et des ordonnances. Tellement de gens essaient de dire, nous avons un clou d'origine, nous avons un morceau de la croix, mais trois choses ont été laissées. Le souper du Seigneur, le baptême, le lavement des pieds, c'était les trois ordonnances qui ont été laissées à l'Église. Et pour moi, ce soir me semblait être un moment très spécial pour moi. Alors que je me tenais ici à observer, d'habitude je suis constamment en prière, mais ce soir j'observais les différentes familles, de voir certaines de ces familles qui viennent ici depuis que je suis tout jeune prédicateur. Ils étaient ici avec les planchers de sciure, et certains d'entre eux sont nouveaux. Mais regardant les hommes s'avancer avec leurs petites épouses et leurs familles, et de voir comment ils s'estiment les uns aux autres, et le caractère sacré de cela, comment ils surveillent leurs enfants, de voir la petite dame et ses mains se tendre, et penser, cette petite main a lavé et a essuyé les larmes des yeux du bébé. Ensuite, j'ai vu s'avancer les familles où je suis allé chez eux quand ils étaient malades, et la fièvre, les enfants. Le Seigneur Jésus a guéri leurs enfants. Je l'allais voir quand ils avaient des problèmes familiaux. Le Seigneur m'a aidé à les aplanir, les revoir heureux. Et je pense à ce que ce sera quand nous irons à ce grand souper des noces. Je suis si reconnaissant que le Seigneur m'ait permis d'être votre ami et de vous aider. C'est pour ça que je suis ici. Et je pensais seulement combien de temps, combien d'années. C'est environ. J'ai commencé à prêcher vers 1930 et ça fait environ 32 ans maintenant, 33 ans que je prêche. Et puis toutes les luttes et les épreuves, et il semble cependant que quand nous venons ici, c'est tout oublié. Voyez, on dirait qu'il y a quelque chose dans la communion qui enlève tout, toutes les choses tortueuses en prenant la communion. Que le Seigneur vous bénisse. L'ancien doit maintenant aller lire l'Écriture pour le service de lavage des pieds. Et le souper étant terminé, le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer. Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se saignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Il vint donc à Simon-Pierre, et Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds? » Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Pierre lui dit, « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous. » Car il connaissait celui qui le livrait. C'est pourquoi il dit, « Vous n'êtes pas tous purs. » Après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez maître et seigneur et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le seigneur et le maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. »
Baptized with the Holy Ghost and power for service came. Now what he did for them that day, he'll do for you the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah.
one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Though these people may not claim to be or boast of worldly fame, they have all received their Pentecost, baptized in Jesus' name, and they're telling now both far and wide His power is yet the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah, one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Now, come, my brother, seek this blessing that will cleanse your heart from sin, that will start the joy bells ringing and will keep your soul on flame. Oh, it's burning now within my heart. Oh, glory to His name. I'm so glad that I can say I'm one of them. Let's say it, oh, one of them. One of them. One of them, hallelujah, one of them, one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. How many is one of them? Raise your hands. Oh, my. Oh, how glad I am I'm one of them. One of them. Gathered in that upper room, all praying in His name. They were baptized with the Holy Ghost, then power for service came. Now, what He did for them that day, He'll do for you the same. I'm so glad that I can say I'm one of them.
Why I am so happy and free. I've been filled with the Spirit, there isn't a doubt, and that's what's the matter with me. Oh, that's what's the matter with me. Oh, that's what's the matter with me. I've been filled with the Spirit, there isn't a doubt, and that's what's the matter with me.
Let's all sing it then.
We find many people who can't understand why we are so happy and free. We're filled with the Spirit, there isn't a doubt, and that's what's the matter with me. Oh, that's what's the matter with me. Praise God. Oh, that's what's the matter with me. Don't understand it, I see. But across over Jordan to Canaan's fair land, and that's what's the matter with me. Oh, that's what's the matter with me. Praise God. Oh, that's what's the matter with me. I crossed over Jordan to Canaan's fair land, and that's what's the matter with me.
blessed be the name. Oh, blessed be the name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name. Oh, blessed be the name. Blessed be the name of the Lord. Jesus is the name. Jesus is the name.
Stand and shake hands with one another. Our Lord is coming back to earth. again. Oh, Satan will be bound a thousand years. We'll have no tempter in hand. After Jesus shall come back to earth again.
This is Pentecost worship.
Hallelujah.
This is Pentecost. Hallelujah. Let's clap our hands and sing it. Pentecostal people, everybody, now loosen up. Get that old Methodist formality out of you. Let's sing it.
Oh, our Lord is coming.